Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
En fait, j'ai l'impression d'être sortie d'un tunnel complètement sombre pour être entrée dans quelque chose de presque monde des bisounours, où tout se passe bien, où tout est doux, où tout est joyeux. Quelque part, je sais très bien que pour des gens qui sont dans la période sombre, ça paraît un peu fou et pas possible, parce que moi, j'ai été comme ça pendant un temps. Ma boussole, c'est moi. Et je me tiens à cette boussole. Ça demande parfois du courage. Ça demande parfois de faire des choix qui sont pas simples à faire. Et notamment, tu vois, typiquement, arrêter mon agence, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Mais franchement, ça a été un choix qui m'a demandé beaucoup de courage. Parfois, pour aller vers cette zone de confort et cette zone où tout est plus facile, où tout est plus intuitif, ça implique de faire confiance à cette intuition et donc ça implique de faire parfois des choix où tout autour de toi, les gens te disent « mais en fait, t'es complètement dingue, tu vois, arrêter mon agence, personne n'a compris, hein, autour de moi. »
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Toutes mes excuses pour cette introduction où je parle un petit peu du nez. Je suis très heureuse de vous présenter Anaïs. Un immense merci Hélène d'avoir mis Anaïs sur mon chemin. Parce que je ne veux pas que mes épisodes durent plus de 2 heures, vous verrez, je ne rebondis pas sur tous les sujets comme à mon habitude, car il y avait un grand nombre de sujets que je voulais aborder avec elle. Anaïs a fait une école d'architecture d'intérieur et de design. Elle a ensuite fondé une agence qui a cartonné. Après 2 burn-out et un voyage introspectif en Alaska, elle décide d'écouter sa petite voix et de tout quitter, sans savoir de quoi demain serait fait, mais en ayant confiance. Aujourd'hui, Anaïs est une conférencière à succès et écrit son premier livre. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Anaïs Gauthier.
Bonjour Anaïs.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Oui, alors écoute, je t'ai envoyé la photo d'une paire de jumelles, petite paire de jumelles très légère, très compacte, qui m'a été offerte par mon chéri avant mon départ en Alaska. Pour moi, c'est un symbole assez fort. D'ailleurs, je les ai quasiment toujours avec moi, enfin sauf quand je suis en ville, mais sinon, je les ai toujours sur moi. Ça symbolise mon côté exploratrice, en fait, que j'ai mis très, très, très longtemps à accepter, enfin plus de 30 ans, et que je voyais pendant longtemps comme un handicap. Et en fait, je me suis aperçue que c'était un atout. Et donc, pour moi, la paire de jumelles, en fait, c'est un peu le symbole de ma façon de fonctionner, c'est-à-dire j'ai besoin de regarder dans les jumelles pour avoir une vision très focus, très détaillée, pour vraiment comprendre les choses dans leur subtilité. Et en même temps, j'ai besoin de m'en détacher très régulièrement pour avoir une vision globale. Et en fait, je fais des allers-retours comme ça constamment. Et au sens propre, quand je suis dans la nature et que j'entends un animal, un oiseau, je fais des allers-retours entre l'œil de mes jumelles et puis une vision 360. Donc voilà, c'est un peu le symbole de. C'est aussi pour moi le symbole de l'aventurière du coup qui assume d'avoir besoin d'expérimenter des choses, de tester plein de choses. D'être créative et de faire aussi les choses sans savoir, en fait, d'être ouvert à ce qui peut advenir tu vois, par exemple, ça peut être partir en voyage, ça peut être une retraite, enfin ça peut être même une activité professionnelle. Aujourd'hui, j'ai accepté et j'assume de faire les choses sans forcément avoir un objectif à la fin déterminée. Et en fait, c'est quand je me laisse guider par mon intuition que que tout roule et qu'à la fin, c'est sublime, beaucoup plus que quand je m'étais fixé un objectif au départ.
Ça, tu vas nous raconter, parce que t'as pas toujours été comme ça avec ce mode de pensée. Si on repart sur le côté exploratrice, quand est-ce que t'as réussi à l'assumer et à le transformer en une force, comme tu disais?
Je pense que ça a commencé pendant mon voyage en Alaska, en fait. Il y a plein de choses qui se sont décantées. Je me suis vraiment En fait, j'avais besoin de m'extraire du quotidien et de mon ego quelque part. J'avais besoin de m'extraire de l'image que j'avais de moi, de l'image aussi que les autres avaient de moi, pour essayer de voir ce qui restait en fait quand on enlevait le costume de la businesswoman parisienne, tu vois, un peu coquette, qui aime bien les bonnes choses et tout. Et donc en fait, en me dépouillant de tout ça, je partais pour ça. Et en fait, j'ai fini par c'est difficile à expliquer. J'ai fini par sentir comme mon essence, quoi. Tu vois, ce qui pouvait rester en fait derrière ça. Et donc ça a vraiment été un déclic. Et alors après, quand je suis rentrée d'Alaska, je me suis fait accompagner parce que le déclic parfois, suffit pas. J'ai senti que j'avais besoin de me faire accompagner. Et j'ai choisi une coach à cette époque-là où je lui avais dit. Je sens, j'ai l'impression de ne savoir rien faire, de pas avoir de qualité, de talent, alors qu'au fond de moi, je sais que j'en ai, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, à les comprendre, à les identifier. Et donc en fait, elle m'a aidée à faire ça, et on a fait un exercice génial où vraiment je suis allée creuser chaque talent avec leur part de lumière et leur part d'ombre aussi. Parce qu'un talent, ça peut pousser à l'extrême, ça peut devenir difficile. Ça peut générer de la violence envers soi-même. Et donc en fait, c'est comme ça que j'ai fini par identifier que j'avais vraiment un côté exploratrice et par l'accepter pour ensuite être capable de le dire et de l'assumer.
Ça, c'est un truc, tu vois. Bon, de toute façon, on va en parler après, parce que tu as subi le burn-out pas une fois, même deux fois. Et moi, je sais que suite à mon burn-out, j'en ai fait qu'un, et je touche du bois, du singe, tout ce que je peux pour que je n'en fasse qu'un seul dans ma vie. T'arrives dans un moment dans ta vie où, en effet, tu te dis, je sais plus qui je suis, et en fait, je sais que je suis capable de choses, mais je ne sais plus quoi et compagnie. Et tu vois, j'ai lancé un programme pour permettre justement aux personnes de pouvoir répondre à cette question-là. Et quand je discute avec les personnes qui ont fini le programme, elles me disent, bah ouais, clairement, je savais plus qui j'étais, j'avais plus de talent, et de voir les gens s'illuminer en se disant, bah voilà, en fait, je sais que je suis faite pour ça, ça a un côté tellement magique, et tous les gens qui nous écoutent, vous avez tous un talent, vous avez tous des qualités, et le tout, c'est juste de savoir les réveiller. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en parlait avec mon invité, ça va être l'épisode qui va être diffusé cette semaine, avec Marie-Hortense Barin. Et Marie-Hortense, elle avait jamais vraiment assumé sa foi dans un podcast ou dans un média. Et donc là, elle a cité une parabole de la Bible qui est la parabole des talents, et qui dit que, alors on croit ou pas en Dieu, mais bon, j'ai envie de dire, dans tous les textes, dans tous les textes sacrés, il y a des choses intéressantes, et qui dit qu'en fait, Dieu a placé en nous un talent, et que c'est à nous de le cultiver et de le faire grandir, et que c'est, entre guillemets, un peu péché de ne pas l'exploiter.
Oui, moi, je suis convaincue qu'on a tous une pépite, en nous, et que finalement, c'est d'ailleurs un peu ce qui parfois me met un peu en colère quand je regarde de la façon, par exemple, dont l'éducation est faite à l'école. Moi, j'ai eu avec le recul, maintenant, j'ai la sensation que finalement l'école m'a fait complètement m'a cassé en fait a cassé tout ce qui venait vraiment du fond de moi quand j'étais enfant et qui était vraiment mes talents. Et en fait, j'ai mis énormément de temps, j'ai mis des années en fait à déconstruire ce que l'école m'avait appris pour rentrer dans le moule, pour retrouver ses talents. Et en fait, à la fin, quand je regarde ce que je fais aujourd'hui et comment je fonctionne et tout, je me dis, mais finalement, en fait, ça reboucle avec la petite fille que j'étais à 5 ans.
Alors justement, c'était qui cette... Donc, où est-ce que t'as grandi et c'était qui cette petite fille? C'était qui la petite Anaïs de 5 ans?
Alors, j'ai grandi... Alors, j'aime bien dire que j'ai grandi dans la forêt. Alors, quand je dis ça, les gens imaginent que une cabane au fond des bois. Alors non, c'était quand même un peu civilisé. Mais j'ai grandi dans une ville dans l'Oise, en fait, qui est une toute petite ville pas connue, où les maisons sont dans la forêt. Voilà. Et c'est à côté de Chantilly. Bon, Chantilly, qui est une ville qui est connue pour le château, la crème et les chevaux. Et tu m'as demandé quelle petite fille j'étais. Et alors en fait, j'étais une petite fille très très curieuse. J'avais toujours envie d'apprendre, de comprendre. J'ai souvenir que je posais beaucoup de questions et que les réponses qu'on me donnait, souvent me satisfaisaient pas complètement. J'étais surtout quand j'ai commencé à aller à l'école et tout. J'étais très très sage dans le sens très studieuse, très scolaire. Je voulais vraiment bien faire. J'avais toujours cette volonté et j'avais compris qu'en fait la vie c'était de bien faire les choses et donc je mettais beaucoup d'énergie à faire de mon mieux en fait tout ce qu'on me demandait. Et en même temps, j'ai aussi souvenir que les maîtresses, quand j'étais petite, disaient à ma maman « Elle est très lente, Anaïs, elle est très appliquée, mais elle est très lente. » Alors aujourd'hui, j'assume en fait d'avoir un rythme particulier qui n'est pas le rythme qu'on essaie de nous imposer. Et puis j'étais assez débrouillarde. Enfin, je passais beaucoup de temps à faire des expériences dans la nature, à imaginer des objets, à les fabriquer, à les tester. Je passais beaucoup de temps à observer, tu vois. Peut-être que tous les enfants font ça, hein. Je sais pas. Moi, je passais beaucoup de temps à observer les fourmis, toutes les petites bêtes dans le jardin. Je leur faisais vivre des expériences, d'ailleurs, les pauvres. Tu sais, j'en suis pas très fière aujourd'hui, mais je crois que j'avais un espèce de besoin de comprendre, en fait, ce qui m'entourait, comment ça fonctionnait. Et puis j'avais aussi un grand besoin de créer, donc ça passait par plein de choses. Je dessinais beaucoup. Quand j'ai commencé à grandir, j'écrivais. J'ai beaucoup écrit. J'ai écrit beaucoup de choses qui ont été lues par personne en fait. J'avais créé un journal pour l'école que j'ai jamais osé montrer à qui que ce soit ni diffuser. Tu vois que je faisais toute seule. J'écrivais de la poésie. J'avais un recueil de poèmes. Donc je trouve maintenant, avec le recul, je me dis voilà, les points communs, c'était vraiment le besoin de comprendre ce qui m'entourait, la nature. Il y avait un lien assez fort avec la terre, quoi, vraiment. Et en plus, en étant en forêt, j'avais la chance de pouvoir tous les jours voir les écureuils, le soir voir des renards, des sangliers. Enfin, c'était vraiment
plongé dans la nature au quotidien.
Oui, oui, même si on était dans un milieu qui était pas isolé et qui était quand même un peu urbanisé, au quotidien, j'avais quand même ce lien, tu vois, identifier les oiseaux. Bon, aujourd'hui, je trouve que j'en sais pas assez sur tout ça, mais ça se travaille.
Et quand tu avais cet âge-là, c'était quoi ton rêve de petite fille? Tu disais, quand je serai grande?
Alors, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu toute une période où je rêvais d'être écrivain. Tu vois, j'admirais beaucoup Agatha Christie. Ce mode de vie de finalement Agatha Christie pour écrire ses histoires, en fait, elle s'inspirait de ce qu'elle vivait au quotidien et elle a eu un mode de vie très original et elle a eu beaucoup d'audace en fait pour son époque. Elle voyageait toute seule, elle est partie loin, elle a vécu sur des sites de fouilles archéologiques pendant de nombreuses années. Et en fait, tout ça, ça a nourri ses écrits. Et donc moi, j'avais vraiment envie de partager en fait par l'écriture ce que je vivais, ce que je fais aujourd'hui. Mais en fait, quand j'étais enfant, je le faisais déjà. C'est-à-dire que je mettais en mots ce que je vivais, ce que je ressentais. Ce qui me marquait en fait, ce qui me rendait joyeuse, mais aussi ce qui me mettait en colère, ce qui me rendait triste. Parfois, quand je rentrais du collège, je passais une heure à écrire pour raconter en fait ce qui s'était passé en m'adressant vraiment à d'autres gens, ouais, sauf que personne le lisait. Voilà. Mais j'avais ce besoin de faire une espèce de chronique, tu vois, des temps forts, en fait, que je vivais.
Tu les as gardés, ces textes?
Non. Je suis retombée sur 2-3 trucs chez mes parents il y a quelques années en vidant mon ancien bureau, mais j'ai pas gardé grand chose. Après, tu vois, il y a peut-être des trucs sur les vieilles disquettes à l'époque d'ordinateur. Et puis sinon, j'ai eu après toute une période où, mais qui est pas complètement décorrélée, où je voulais être archéologue. Et ça, ça a duré quasiment 10 ans. Et d'ailleurs, je ratais pas un documentaire, pas un livre sur le sujet. Enfin, vraiment, j'avais fait des stages. Ça réunissait, je crois, ce besoin de comprendre, en fait, de comprendre le passé, peut-être pour mieux comprendre le présent. Et puis ce lien à la terre. Et en fait, finalement, quand je regarde les métiers que je voulais faire, donc il y a eu archéologue pendant longtemps, puis après ça s'est transformé en géologue. Parce que j'avais l'impression que c'était plus facile, que ça répondait plus à ce qu'on attendait, en fait, tu vois, c'était peut-être plus scientifique. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que c'était plus évident. Bon, finalement, j'ai pas du tout fait ça parce que autant j'adorais les sciences de la vie et de la terre, autant le reste, c'était une catastrophe, les maths, la physique, la chimie, c'était une catastrophe. Donc, j'ai pas pu faire ça. Et puis, il y a un métier aussi qui me fascinait et j'ai jamais osé le dire aux adultes. Et tu vois, je l'ai retrouvé quand j'étais en Alaska, en fait. C'est le métier de garde forestier. Et en fait, j'ai souvenir de sortie quand j'étais enfant avec un garde forestier dans la forêt, à côté du château de Chantilly, organisé par l'école, tu vois. Et j'ai souvenir qu'il nous racontait plein de choses. Il nous racontait comment l'arbre grandissait, les champignons, comment ça fonctionnait, tout ça. Et j'étais fascinée et je me disais, mais c'est génial ce métier, il est à l'extérieur, il explique des choses passionnantes, il comprend comment ça marche autour de lui. Et en fait, je crois que je me suis complètement, comme beaucoup de choses, hein, je me suis complètement coupée parce que j'avais la sensation que ça répondait pas à ce qu'on attendait de moi, en fait.
La société et l'environnement.
Et l'environnement, et la famille, les parents. Enfin, tu vois, j'avais l'impression que c'était pas vers ça qu'on m'emmenait. Mais il y a un truc, je me souviens très bien que quand j'étais au collège, déjà, je disais à ma mère, je disais, en fait, je pense que je peux faire n'importe quel métier, mais le truc vraiment qui est important pour moi, c'est de pas être enfermée dans un bureau. En fait, c'était je m'étais dit, il faut impérativement que je puisse bouger, que je sois dans la nature, à l'extérieur au maximum. Et pourtant, par exemple, il y a des enfants qui ont été scouts pendant très longtemps. Moi, j'ai pas du tout fait ce genre de choses. Donc, je sais pas. Je crois que c'est
toi. Ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Et tes parents, ils faisaient ou d'ailleurs, ils font quoi comme métier?
Alors, ils travaillent plus, ils sont à la retraite maintenant. Mon papa, il était pilote dans l'aviation d'affaires. Et ma maman, elle a été gestionnaire d'une petite entreprise à échelle familiale. Ils étaient, à l'époque, quand j'étais enfant, je crois qu'ils étaient 3 ou 4. Et en fait, elle travaillait 2 jours par semaine, le lundi et le jeudi, tu vois, je me souviens bien, pour s'occuper de nous. En fait, parce que mon papa, en fait, mes parents, ils ont vécu ensemble, en couple, 10 ans en Afrique. Et quand ils sont rentrés en France pour ma naissance, mon papa a trouvé donc il était pilote de brousse en Afrique. Et quand il est rentré, il a trouvé cette opportunité d'être pilote dans l'aviation d'affaires. Et en fait, la particularité, c'est que ça n'a rien à voir avec l'aviation. De courrier à laquelle on est habitué, c'est-à-dire qu'il avait un rythme qui changeait tout le temps. En fait, il était tout le temps d'astreinte, donc il pouvait être appelé à n'importe quand, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, même les week-ends. Parfois, on se couchait le soir et puis le matin, il n'était pas là, tu vois, parce qu'entre-temps, il avait été appelé dans la nuit, il était parti. Et puis parfois, il enchaînait les missions pendant longtemps, donc on pouvait se retrouver que pendant 15 jours, 3 semaines ou plus d'un mois, il soit pas là. Donc en fait, ma maman, elle avait un métier où elle Voilà, elle s'était organisée pour aller nous chercher à l'école, nous trimballer dans les activités qu'on avait, s'occuper des devoirs. Enfin, voilà quoi. Elle s'est vraiment, elle s'est plus occupée de nous que elle s'est impliquée dans son métier.
Ouais. Et toi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'a titillé très jeune?
Oui, en fait, je crois que, alors, j'ai grandi dans un milieu où la valeur travail est très très forte et avec une autorité quand même assez importante. Et donc en fait, quand j'étais petite, je me sentais tout le temps oppressée, je me sentais pas à ma place et j'avais toujours l'impression qu'on me contraignait, en fait, tu vois. On m'imposait un rythme qui me convenait pas, l'école aussi c'était un rythme qui me convenait pas, et donc en fait je crois que assez vite, en fait, je me suis promis quand j'étais enfant que adulte, en fait, personne ne m'obligerait à faire des choses que j'avais pas envie de faire, à être à des endroits où j'avais pas envie d'être. Alors c'est, je pense que c'est mon ressenti de l'enfance a aussi été exacerbé par le fait que je suis hypersensible. Et en fait, j'ai découvert assez tard, hein. J'ai découvert quasiment à 30 ans. Mais ça explique aussi, tu vois, que je réagissais très fort aussi, tu vois, quand on me demandait de faire un truc. Il y a eu un cumul de choses. C'est-à-dire, il y a eu l'autorité parentale qui était quand même très forte. Et puis moi, en tant qu'enfant hypersensible, eh ben, j'avais tendance, du coup, à me sentir incomprise et à avoir la sensation de subir vraiment les choses. Donc très vite, je me suis dit, mais en fait, moi, je veux être le plus libre possible et en fait, avoir quelqu'un qui décide de mon emploi du temps, avoir quelqu'un qui décide de combien je gagne. Enfin, tu vois, des trucs quand même importants dans la vie, ça me semblait mais au-dessus de mes forces, en fait. Vraiment, et donc en fait, assez vite, j'ai commencé à me dire, mais en fait, l'autonomie et l'indépendance, enfin la liberté, en gros, c'est l'argent. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, si tu veux être libre, et eh ben du coup, il faut que tu gagnes de l'argent, parce qu'avec ça, tu pourras bah, faire ce que tu veux. Et donc, ça a commencé très tôt, parce que déjà à 10 ans, je cherchais en fait des moyens de gagner de l'argent. Donc, je faisais des petits trucs à la maison, du type nettoyer la voiture, nettoyer le portail. Ou quand j'ai commencé à être ado, mon père acceptait, à condition que ce soit fait assez rapidement, qu'il attende pas trop longtemps et tout, il nous donnait une pièce, tu vois. Donc je faisais des trucs comme ça, je tendais la pelouse dans le jardin. Donc ça, c'était vers 10 ans. Et en fait, j'ai une tante à l'époque qui m'a appris à faire des bracelets tissés, tu sais, en perles, comme on peut faire enfant. Et donc en fait, très vite, je me suis dit, mais en fait, ça, je pourrais les vendre. En fait, j'avais plein de copines qui trouvaient mes bracelets super et tout. Donc, à 10 ans, j'avais créé un truc que j'avais appelé la perlerie. Et en fait, je te parle de ça parce que j'ai retrouvé il y a pas longtemps chez mes parents, dans une boîte, une petite carte avec ma photo, mon nom. Et c'était marqué co-directrice la perlerie. Et l'autre co-directrice, mon associée de l'époque, c'était ma tante, tu vois, qui m'avait appris à faire les bracelets. Donc, tout ça pour dire que, tu vois, ça, c'était sous le mode du jeu. Mais ceci dit, je prenais les commandes des copains. Voilà, je prenais les commandes des copains, des copines, de ma grand-mère, machin. Et je gagnais un peu de sous. Et il y avait un fond. Et donc, tous les ans, je continuais de me demander, mais comment je peux faire pour gagner de l'argent? Et j'ai envisagé plein de trucs débiles. Et puis, un jour, à 15 ans, devant la télé, un après-midi, enfin, je devais être toute seule parce qu'on n'avait pas le droit de regarder la télé. Donc, je pense que j'en profitais d'être toute seule pour être devant la télé. Et en fait, je tombe sur un reportage sur le salon du tatouage. Et il y a des gens qui sont interviewés et qui expliquent que bah ils font des tatouages éphémères, en fait, à base de henné, et ils font les marchés et tout. Et en fait, je me dis, mais en fait, ça marche, ça peut marcher. Et là, je me suis dit, pourquoi pas moi, tu vois. Là, vraiment, je me suis dit, mais attends, c'est tout à fait possible. Et donc, j'ai commencé à me renseigner. Et une fois que j'avais pensé le truc, que j'avais trouvé où j'allais le faire, j'ai une tante qui a un restaurant au bord de la mer en Bretagne, je m'étais dit, je vais me mettre devant son restaurant. Enfin, tu vois, j'avais tout pensé. je savais combien d'argent il me fallait pour pouvoir investir en matériel. Et donc, j'ai un peu tanné ma mère. Et j'ai une grande chance, c'est que j'ai une maman qui a toujours été très ouverte et qui a toujours encouragé. C'est-à-dire que ça nécessitait vraiment d'aller chercher en moi les ressources et les arguments pour la convaincre. Mais une fois qu'elle sentait que j'y croyais vraiment, et ben du coup elle m'aidait. Et donc en fait elle m'a prêté à l'époque 500 €. C'était énorme, hein, quand à 15 ans. C'était énorme pour moi comme somme. Et en fait on avait convenu qu'elle me prêtait l'argent pour que je puisse aller acheter le matériel. Et donc j'étais allée avec mon petit copain de l'époque. On était allé une journée à Paris au salon professionnel pour que je trouve le matériel et que je vois comment ça marche et tout. Et j'ai fait sans le savoir un espèce de proof of concept, c'est-à-dire que cette année-là, j'ai tatoué tous mes copains pour voir en fait si j'y arrivais, pour tester. Et j'étais convaincue, je me suis dit c'est bon. Et donc en fait j'ai fait ça une semaine en été, sans autorisation à l'époque, sur la promenade du port devant le restaurant de ma tante, en me disant je tente le coup une semaine et si ça marche, eh ben l'année d'après je le ferai dans la légalité, parce qu'en fait là je savais que voilà c'était un peu border. Et en fait ça a cartonné. Et donc après ça j'ai passé l'année à préparer en fait la saison suivante pour travailler 2 mois. Et donc j'ai traîné ma mère à la préfecture pour demander
des dérogations. En plus, t'avais 15 ans, donc t'avais pas le droit
non,
de travailler.
Non, j'avais pas le droit. Et donc c'est pour ça que cette année-là, j'ai fait qu'une semaine. Et en fait, j'ai profité du fait qu'il y avait une jeune femme, enfin un jeune adulte, qui faisait ça en fait devant le restaurant de ma tante, et ça marchait pas. Et en fait, elle a abandonné. Et moi j'ai pris le relais, c'est-à-dire que je me suis mis à l'emplacement où elle était. Et donc en fait je crois que, parce qu'il y avait quand même des contrôles et tout, en fait c'est passé comme une lettre à la poste, mais j'ai fait ça qu'une semaine, tu vois. Et donc en fait après à partir de 16 ans en fait la plupart des gens ne le savent pas, alors je sais pas si c'est encore comme ça, mais moi à mon époque à 16 ans on pouvait travailler, ouais, à condition d'avoir une dérogation des parents qui était transmise en préfecture, etc. Donc on a fait ça. Ma mère m'a accompagnée, elle a fait les démarches. Elle m'a accompagnée à faire les démarches à la mairie aussi de la ville où je travaillais, parce qu'en fait, pour avoir le droit d'être sur la voie publique, il fallait que je paye en fonction du nombre d'heures chaque jour. J'avais une patente à payer. Et donc j'ai tout fait en règle. Et puis du coup, je me suis fabriqué un beau stand. Mon papa m'avait aidé à l'époque. On était allé récupérer une table de... pour poser le papier peint là, tu sais, les tables à encoller du coup qui étaient pliables. Enfin bon, donc voilà, j'ai fait ça parce qu'en fait je voulais être indépendante, je voulais gagner de l'argent, et je voyais mes cousins qui commençaient à travailler à 18 ans et qui travaillaient comme des malades en tant que serveur ou en tant que plongeur dans le resto de ma tante et puis dans d'autres restos à côté. Et en fait, moi, je me disais, mais en fait, c'est de la folie, ce truc-là. Enfin, de faire des horaires pas possibles. Ils avaient pas le temps de rien, en fait. Et ils étaient crevés. Ils se couchaient à 3 heures du mat. Enfin, et moi, je me disais, mais c'est pas possible. En fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Mais par contre, je veux être autonome. Donc, j'ai fait ce job-là. En fait, après, j'ai continué pendant mes études jusqu'à mes 20 ans. Et je gagnais 4 fois plus que mes cousins qui étaient en restauration, en travaillant les horaires que je voulais. S'il y avait un jour où j'étais malade, j'y allais pas. Et puis en plus, il y avait le lien avec le public qui était génial. Enfin, tu vois, ça, c'était aussi un truc que j'adorais. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis après, j'ai fait mes études. Donc,
alors justement, au moment de faire tes études, comment ça s'est passé pour toi? Comment t'as pris la décision de ce que t'allais faire?
Pendant le lycée, j'ai laissé tomber les idées de géologie et archéologie et tout, parce que c'était devenu vraiment une grosse souffrance, les mathématiques notamment, à tel point que je pense vraiment que j'ai un professeur en fait principal à l'époque qui je pense m'a vraiment sauvée. Il s'est rendu compte que vraiment j'allais très 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 mal, alors que personne le voyait, et en fait il m'a fait changer de filière, c'est-à-dire que j'ai fait une première S et une terminale économique et sociale, sans repasser le bac et tout. Donc j'ai passé le bac, j'avais pas toutes mes matières, mais ça m'a sauvée et ma bulle d'oxygène en fait dans cette période de lycée qui a été extrêmement difficile pour moi, c'était les cours de dessin. En fait, j'avais un prof de dessin au lycée qui était super et ça me faisait un bien fou de dessiner. On faisait du nu, on faisait de la nature morte, on partait à l'extérieur quand il faisait beau, dessiner du paysage. Et en fait, j'ai commencé à prendre des cours en dehors du lycée avec lui. Et en fait, de fil en aiguille, je me disais vraiment, je me sens bien quand je dessine, ça m'apaise. Faut que j'aille dans cette direction. Et lui, tu vois, c'était un artiste. Et puis son fils avait fait des études d'art. Et donc en fait, en discutant avec lui de fil en aiguille, j'ai décidé de prendre cette direction-là. Et donc j'ai fait une prépa artistique. Et à l'époque, je voulais faire du dessin animé ou du jeu vidéo. Et très vite, je me suis rendu compte pendant ma prépa que j'étais pas très douée pour créer des personnages et raconter, enfin créer des scénarios et tout ça. Ce qui est un peu embêtant pour faire quand même du dessin animé. Mais par contre, j'étais très douée pour créer les environnements, pour créer les espaces, en fait, les décors, les ambiances. Donc, sur les conseils de mes profs à l'époque, j'ai passé le concours d'une école qui était à l'époque. Alors aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça, mais à l'époque, elle était très, très réputée. Une école qui avait la particularité de ne pas m'obliger à choisir, c'est-à-dire que pendant 5 ans, je savais que je pourrais faire à la fois un diplôme d'architecte d'intérieur et donc travailler sur tout ce qui était aménagement d'espace, ambiance, etc. Et en même temps, je faisais aussi parallèlement un diplôme de designer, donc designer d'objets, de mobilier, de luminaires, etc. Et j'avais pas envie de choisir, enfin c'était trop tôt pour moi. Donc j'ai réussi le concours de cette école, j'avoue que c'était un peu une surprise ce truc-là, mais donc j'ai fait mes 5 années.
Donc cette école, c'est drôle parce que cette école c'est Camando, pour ceux qui connaissent, et c'est l'école que mon papa a fait. Donc quand j'ai vu que tu avais fait Camando, ça m'a fait sourire.
Ah c'est drôle. Ouais. Ah ouais c'est une école qui existe depuis assez longtemps. Hein. Et en fait c'est une école d'art décoratif pour ceux qui connaissent pas, vraiment appliquée quoi. Appliquée. Quand on dit les arts appliqués, c'est appliqué au quotidien, donc à l'habitat, aux objets.
Et quand t'as choisi de faire ça, comment tes parents, ton entourage, ils ont réagi?
Ah oui, ça tiens, j'avais oublié. en fait, ma maman qui, comme elle s'occupait quand même pas mal de nous, elle suivait, tu vois, mon évolution de pensée, etc. Elle était un peu inquiète que j'aille dans ce milieu-là parce qu'elle avait l'impression qu'il n'y avait pas de travail, qu'il n'y avait pas de débouché. Mais le fait que j'ai le concours pour cette école, du coup, elle s'est dit, voilà, c'est la meilleure école, enfin, tu vois, donc elle était confiante, donc elle m'a plutôt soutenue. Par contre, mon père, ça a été hyper dur. Quand j'ai arrêté la filière scientifique, ça a été compliqué. Faut savoir que mon papa n'a pas fait d'études, hein, il fait partie de cette génération où il était encore possible de partir de rien et vraiment de faire une belle carrière, donc il a tout fait tout seul. Et donc je pense qu'il avait envie que ses enfants, tu vois, fassent un cursus un peu, enfin voilà, un peu classique et un peu le cursus qui est idéalisé. Donc pour lui ça a été très dur et en fait, je sais qu'ils se sont beaucoup engueulés en fait à mon sujet à cette époque-là. Et c'est vraiment ma mère qui m'a soutenue, mais même financièrement. Enfin, je sais que mon père, il voulait pas en fait que je fasse ça. Il voyait pas du tout de sens. Et il a mis 3 ans à arrêter de se moquer de moi et à accepter cette école. Et en fait, c'est quand je suis arrivée en 3e année, donc l'année de la licence, où il s'est rendu compte que quand il parlait de l'école Camondo autour de lui, et ben en fait, il y avait des gens qui connaissaient. Et en fait, quand il a commencé à y avoir des connaissances, des collègues, des amis qui lui disaient « Mais attends, mais je la connais cette école, elle est très réputée. » Et ben en fait, là, je crois qu'il a commencé à accepter, tu vois. Et puis, ça devenait plus concret aussi parce que c'est vrai, faut être honnête, les premières années, quand tu fais des études dans le milieu artistique, les premières années, les parents, ils se demandent ce que tu fous. Enfin, moi, je faisais du land art, Je faisais des grandes maquettes que j'arrivais même pas à porter toute seule, tu vois, dans le métro. Je faisais des trucs où mon père, il disait, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Enfin... Donc voilà, je comprends aussi que ça puisse paraître un peu... Et moi-même, hein, après, plus grande, adulte, il y a eu une période où je me suis demandé si mes études avaient été utiles. Il y a vraiment une période où je me suis dit, mais je me suis plantée d'études, en fait, j'aurais dû faire école de commerce pour être entrepreneur. Tous les entrepreneurs autour de moi, ils ont fait une école de commerce. Et puis maintenant, j'en suis revenue. Maintenant, j'ai conscience qu'en fait, ça a été une chance énorme parce que ces études-là, elles m'ont permis d'explorer ma créativité, elles m'ont permis de tester plein de choses. J'ai une faculté à me débrouiller toute seule dans plein de domaines. Donc finalement, je crois que pour quelqu'un de curieuse et créative et débrouillarde, c'était les bonnes études, tu vois.
Et donc, quand tu as commencé à travailler, vers quoi tu t'es orientée?
Alors en fait, quand je suis sortie de l'école, tout de suite, j'ai voulu me mettre à mon compte. Parce que pour moi, il n'était pas question d'aller en agence. Alors en plus, j'avais fait des stages en agence. Ça m'avait dégoûtée. Je me disais, je veux pas du tout de ça. Et donc, en fait, j'ai commencé à chercher du travail. Et puis, évidemment, en sortant d'école, toute jeune, pas de réseau, pas connu, machin, difficile de trouver des clients. Et donc, en fait, j'ai un peu fini par céder à la pression de mes parents qui me disaient, Anaïs, maintenant, faut que tu trouves un travail. Et donc, j'ai commencé à postuler et j'ai fini par trouver un poste dans une toute petite agence. Ils étaient 3 architectes italiens. Il n'y avait pas d'architecte d'intérieur et il y a eu un bon feeling avec le patron. Et donc, il m'a dit, je te prends en CDD pour 6 mois. Et en fait, ce qu'on n'avait pas anticipé tous les deux, c'est que j'étais incapable de me consacrer qu'à ça. Et donc, en fait, j'ai fait pendant 6 mois parallèlement de continuer de bosser pour monter mon agence. Et en même temps, je travaillais chez lui. Donc, en fait, je me levais à 5h du matin. J'allais faire des rendez-vous. À l'époque, je dessinais du mobilier. J'avais été sélectionnée pour exposer dans des salons internationaux. Enfin, j'avais vraiment de la chance énorme, tu vois, à chaque fois que je toquais à une porte, que ça s'ouvre. Et donc, je bossais comme une malade. C'est-à-dire que je faisais 9h, 18h30 chez lui. Et je lui avais expliqué qu'en fait, j'allais pas rester jusqu'à 22h comme il était normal en fait dans ce métier parce qu'en fait j'avais des rendez-vous après et qu'il fallait que je les fasse. Et donc j'ai fait ça pendant 6 mois et donc en même temps, j'ai fait des expositions internationales. Donc je prenais des congés pour pouvoir aller faire des expos. Et en fait, je me suis dit en fait au bout de 6 mois, j'en pouvais plus clairement, je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer comme ça. Et donc j'ai pas renouvelé mon CDD. Il voulait que je reste et je lui ai dit non. Il faut vraiment, si je veux que ça avance de mon côté, faut que. Donc en fait, j'ai été salariée 6 mois dans ma vie. Et puis il y avait aussi quand même que avant la fin du CDD, en fait, j'étais pas du tout motivée pour aller au bureau. Alors que j'étais chef de projet, il me laissait une liberté énorme. Enfin, franchement, j'avais un super bon poste et des bonnes conditions de travail. Ce qui est pas fréquent dans ce secteur d'activité. Et donc je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je continue de persévérer pour être à mon compte. Donc voilà, j'ai continué, j'ai fini par trouver mes premiers clients, le fait d'avoir fait des expos, d'avoir eu des articles dans la presse, ça m'a un petit peu aidé, enfin. Franchement, j'ai quand même galéré. Ça a été hyper dur au début. Ça a été super dur. Et en fait, j'ai en 2013, à l'époque où là, tout le monde me lâchait. Mes copains, mon chéri, mes parents, même ma mère, tout le monde était en train de me dire « En fait, Anaïs, t'as pas eu beaucoup de clients depuis que t'as quitté ton CDD. Tu vois, j'arrivais pas à me payer. » À l'époque, j'arrivais même pas à me payer le SMIC. Donc, tout le monde était en train de me dire « Bon, arrête tes conneries. » Et va de nouveau postuler, chercher un job, quoi. Et mon père, il comprenait pas pourquoi j'avais pas candidaté dans des grosses boîtes. Il voulait que j'aille chez Bouygues. Enfin, tu vois, je résistais. Et donc finalement, cette année-là, il s'est passé un truc dingue qui m'a sauvée. C'est que j'ai découvert un incubateur de la ville de Paris qui s'appelle les Ateliers de Paris, qui est dédié au métier de la création. Et j'ai découvert l'incubateur une semaine avant la fin des candidatures. Et donc, j'ai travaillé comme une dingue pour poser mon dossier de candidature. Et alors, ça a été tout un truc parce que après, j'ai pitché en fait devant un jury. Et vraiment, je me disais, mais en fait, il me faut ce truc-là. Il faut que j'ai une place dans cet incubateur, sinon je suis foutue en fait. Et je savais qu'ils allaient m'apprendre, qu'ils allaient m'aider à structurer mon activité. Et en fait, ils m'ont appelé en me disant, mais en fait, c'est super, mais tout ce que vous faites, finalement, on pense que vous n'avez pas besoin de nous, donc on vous prend pas. Et alors là, je me suis effondrée. Et en fait, là, j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, t'as tellement voulu bien faire, t'as tellement voulu présenter tout ce que t'avais fait, que du coup, ils ont pensé que t'étais assez avancée, quoi. Et donc, en fait, au téléphone, je me souviens très bien que je balbutiais, j'étais désespérée et je lui disais, non, mais attendez, mais en fait, faut vous rendre compte, je gagne pas ma vie, en fait, je travaille comme une dingue, mais il y a quelque chose qui marche pas, je sais pas quoi, j'ai besoin de vous, quoi. Et en fait, il y a eu un désistement et donc, ils m'ont pris, enfin, j'étais en liste d'attente, tu vois, et ils m'ont pris. Et en fait, ce truc-là, ça a changé ma vie.
Pourquoi ça a changé ta vie?
En fait, je me suis retrouvée, donc, c'était 2 ans, dans l'incubateur. Alors déjà, j'avais un bureau, donc dans un espace partagé dans le quartier de Bastille à Paris. Donc déjà, j'étais plus toute seule parce qu'en fait, avant, je travaillais toute seule chez moi et j'étais complètement isolée. J'avais personne à qui parler, avec qui m'entraîner, enfin, tu vois, s'entraider et tout. Donc là, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec plein d'autres créateurs dans des activités très différentes. Donc ça, déjà, c'était génial. Et puis en plus, cette année-là, ils avaient beaucoup de budget. Et donc, en fait, on a eu plein de formations. On avait accès à plein de trucs. Et moi, je m'inscrivais à tout. J'ai fait toutes les formations, tous les stages qu'ils nous proposaient. J'ai découvert ce que c'était qu'un business plan, un business model. J'ai découvert comment calculer, combien fallait que je fasse de chiffre d'affaires. Enfin, voilà, tu vois, j'ai rencontré plein de comptables, d'avocats, des trucs que je connaissais pas. Donc là, vraiment, ça m'a aidé en fait à pallier à tout ce manque que j'avais pour être vraiment entrepreneur. Et puis en plus, ça m'a donné de la visibilité. Enfin, on avait une directrice, Françoise Sins, qui était absolument géniale et qui, à chaque fois qu'elle entendait parler d'un truc, eh bien, elle nous appelait en disant « Tiens, ça pourrait t'aider. » Enfin, donc ça m'a vraiment aidée. Et pendant ces 2 années-là, j'ai commencé à avoir des clients beaucoup plus gros, des entreprises. Et j'ai notamment à l'époque travaillé sur le chantier de Accor Hôtel Arena. Alors aujourd'hui, ça s'appelle Accor Arena, qui était l'ancien Paris-Bercy, la salle de spectacle. Et de fil en aiguille, j'ai réalisé les 4000 m² d'aménagement des espaces VIP. Et en fait, ça a donné une autre tournure aussi, tu vois, à mon activité. Donc j'ai commencé à avoir vraiment des grosses entreprises qui venaient me voir et tout. Et en fait, ça a tout changé. Mais il faut quand même que je dise un truc important, c'est que il y a aussi que parallèlement à tout ça, j'ai travaillé sur moi et notamment dès 2013, quand je suis rentrée aux ateliers de Paris, j'ai pris conscience que en fait, si je travaillais comme une dingue, mais que j'arrivais pas à me payer le SMIC, c'est probablement que j'étais à l'origine du problème en fait. Et donc, je le dis parce que je pense aussi, tu vois, pour les gens qui t'écoutent ou les gens qui s'inscrivent, tu vois, au programme que tu proposes, en fait, très tôt, j'ai compris que s'il y avait des trucs qui marchaient pas, et ben en fait j'étais au moins à 50% responsable. Et du coup je me suis inscrite à un stage sur les croyances liées à l'argent qui m'a j'ai mis des semaines à m'en remettre. C'était mon premier stage de développement personnel et en même temps j'ai mis des mois à m'en remettre, mais en fait à partir de ce jour-là je me suis jurée que quoi qu'il arrive dans ma vie, ben en fait je pourrais toujours me payer. À l'époque je m'étais dit je pourrais toujours me payer au moins 1 500 €, tu vois. Et en fait, ça m'a obligée. Enfin, ça m'a fait switcher de mode de pensée. Et je trouve que c'est important parce que dans l'entrepreneuriat, on entend beaucoup, oh, les premières années, c'est normal de pas se payer, machin et tout. Et en fait, non, je crois pas, en fait. Je crois que c'est normal, que tout travail mérite rémunération. Et il y avait aussi dans le milieu de la création où j'étais cette espèce de croyance que, ah bah tu fais un travail créatif, donc tu t'éclates, donc t'as pas besoin d'être payé. Mais en fait, Enfin, je veux dire, les gars, je vis pas juste d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà, ça, je trouvais que c'était important de le dire. Donc, j'ai aussi quand même vachement travaillé sur moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée finalement à la tête d'une agence qui tournait bien, qui était pas très connue. Ça, du coup ? Alors, ça dépendait des périodes. Je portais vraiment l'agence toute seule. Mais parce que j'arrivais pas à déléguer, parce que ultra perfectionniste et très exigeante, et puis aussi parce que j'avais une méthode de travail, et aujourd'hui j'ai compris que c'est lié à mon fonctionnement, mais j'avais une méthode de travail très particulière qui déstabilisait beaucoup les gens qui venaient bosser avec moi, et que moi j'arrivais pas en fait à expliquer, parce que c'était inné, tu vois, je comprenais pas pourquoi les autres faisaient pas comme moi. Donc ça aussi j'ai beaucoup déconstruit, reconstruit tout cet aspect-là, mais j'ai varié en fait. On était toujours au moins deux. J'ai eu des périodes où j'étais toute seule, mais ça durait pas longtemps. Et puis j'ai eu une période où on était cinq, tu vois. Donc c'était vraiment variable, parce qu'en fait je faisais varier aussi l'équipe en fonction de la charge de travail. Ouais.
Et alors, quand est-ce qu'est intervenu ton premier burn-out ?
Alors, assez tôt, parce qu'en fait, c'était pendant mes études, à 20 ans, donc mon année de licence. Et en fait, alors, c'est intervenu à ce moment-là, mais en fait, je pense que le terreau favorable à ça était là depuis plus longtemps. J'ai retrouvé, d'ailleurs, j'en parle dans mes conférences, parce que quand j'ai retrouvé ce truc, ça m'a vraiment choquée, mais j'ai retrouvé dans mon bureau chez mes parents un papier où j'avais décompté en fait mon temps de travail et d'activité. À 16 ans, j'avais déjà 72 heures d'occupé par le travail et des activités que j'avais pas choisies en fait. Alors j'ai eu la chance aussi, quand j'étais enfant, d'avoir accès à beaucoup d'activités, mais on me laissait pas le choix, donc à l'époque je le subissais. Aujourd'hui je sais que c'était quand même une chance. Mais donc du coup j'avais déjà un terrain favorable, tu vois. Le dimanche matin au lycée, je me levais à 6h du matin, à 6h30 je commençais déjà à faire des maths, tellement les maths étaient un problème, quoi. Et je faisais des maths jusqu'à l'heure du déjeuner. Donc après je me suis retrouvée à Paris toute seule, donc quelque part aussi il y avait plus personne pour voir comment je faisais, tu vois, mon rythme. Et puis dans cette école Camondo, la troisième année, c'était un peu l'année charnière, et il y avait beaucoup de rumeurs sur cette année. C'était l'année où il y avait toute une partie des étudiants qui allaient être, on disait éliminés à l'époque. Je sais pas si tu te rends compte quand même du terme. On disait qu'il y avait un tiers de la promo qui allait être éliminée parce que jugée pas assez bon. Et en fait, pour moi, c'était inenvisageable. Je me mettais une pression. Je me disais, mais c'était une école payante. Je me disais, j'avais fait une année de prépa, donc c'était ma quatrième année d'études supérieures. Je me disais, c'est pas possible, en fait, que je ne réussisse pas à passer à l'année suivante. Et donc, je me suis mis une pression de malade et je travaillais comme une dingue. Je dormais presque pas. Je dormais 3-4 heures par nuit. Je mangeais très mal parce que j'avais pas le temps. Et vraiment, j'avais un stress qui était très lié au fait que je m'autorisais pas l'erreur. Et donc en fait, au mois de décembre, alors en plus cette année-là, plus je travaillais, plus mes résultats dégringolaient. Je comprenais pas, hein, évidemment, je mettais toute mon énergie, enfin, mais ça dégringolait. Et au mois de décembre, en fait, j'ai commencé à être tellement fatiguée que fallait que je dorme tout le temps. J'ai eu des douleurs au ventre, j'avais des douleurs persistantes et j'avais des vertiges. Enfin, vraiment, je sentais, tu vois, que mon corps, en fait, n'arrivait plus à tenir. Donc, j'ai fait des examens et en fait, on m'a diagnostiqué une inflammation du système digestif et donc une maladie inflammatoire, en fait. Et ça a été assez violent pour moi parce que un peu du jour au lendemain, je me suis retrouvée que en fait, je pouvais plus vivre normalement. Toutes les 2 heures éveillée, fallait que j'aille dormir 2 heures parce que mon corps pouvait plus suivre. Du coup, je pouvais plus aller en cours normalement. Et alors avec la pression que je me mettais, c'était une catastrophe. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi, si je peux plus aller en cours? Enfin, Et puis le diagnostic en plus a été assez violent parce que grosso modo ils m'ont mis l'épée de Damoclès au-dessus de la tête d'une maladie chronique clairement qui fait pas envie et qu'on soigne pas en fait. Et en fait à la fin ils m'ont dit bon bah on va vous donner des anti-inflammatoires et c'est tout quoi. Et il faut espérer que ça dégénérera pas. Sauf qu'ils pouvaient enfin voilà et la médecine ne savait rien faire d'autre.
Et à ce moment-là, on t'avait parlé du fait que potentiellement c'était il y avait une partie psychologique ou ça n'a pas du tout été abordé?
Alors en fait, c'est ma mère et moi qui avons mis le sujet sur le tapis et les médecins nous ont rayonné. Ils se sont vraiment.
Ça me donne des frissons. Hein.
Ouais, non, mais ils se sont vraiment foutu de ma gueule. Puis il faut te rendre compte que moi j'avais 20 ans. Alors en plus, ma mère, elle s'était prise, enfin, tu vois, aussi le choc de la nouvelle et donc en fait elle émotionnellement elle avait aussi un peu de mal à gérer tu vois le truc et donc ça a été vraiment dur cette période là et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis tournée vers de la médecine alternative vers de la naturopathie enfin je me suis un peu mise en quête de tout ce que je pouvais trouver pour aller mieux. Donc je me suis soignée naturellement par le sommeil. Donc le sommeil c'était un gros truc parce qu'en fait je culpabilisais énormément. Hein. C'est-à-dire que quand donc en fait il y a eu un premier déclic, c'est-à-dire que j'ai pris conscience qu'en fait c'était une question de survie. C'est-à-dire que je me disais en fait si je me repose pas ça va continuer de dégénérer et en fait à la fin c'est la mort quoi. Et en fait, prendre conscience de ça, c'est vraiment un séisme. Mais en même temps, je trouve ça important parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont dans le mental et oublient qu'en fait, on a un seul corps pour vivre et que tout passe par ça, en fait. Donc, si ton corps, tu l'entretiens pas et tu le respectes pas, bah en fait, tu raccourcis ta vie et tes possibilités. Donc ça, ça a quand même été un premier déclic. Ça m'a obligée à me reposer. Et puis, il y a quand même eu un truc extraordinaire, c'est que j'allais 4 fois moins en cours. Grosso modo, je travaillais 4 fois moins. Et en fait, en fin d'année, quand ils ont annoncé les résultats, j'étais major de promo. Et là, je te jure, mais je ne croyais pas le truc. D'ailleurs, c'est des copines, en fait, qui m'en ont parlé parce qu'en fait, je n'avais pas entendu la nouvelle. Et alors que je partais de super bas parce que tout avait dégringolé pendant l'hiver, mes résultats. Et donc, en fait, là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais quand même, il y a quand même un truc, c'est que j'ai travaillé 4 fois moins et en fait, mes résultats sont bien meilleurs. Donc, tu vois, j'ai pris conscience d'un truc. Bon, et puis, j'avais changé aussi plein de choses dans mon mode de vie parce que, du coup, le rythme, mais aussi l'alimentation. Enfin, voilà, il y a plein de choses derrière.
Le sommeil, oui. L'alimentation, tout ça, c'est…
Bien sûr. Bien sûr, mais à l'époque il y a un truc que j'avais pas compris du tout, c'était l'impact des pensées. J'avais, tu vois, ça pour le coup, j'avais pas accès à, enfin voilà, j'ai pas eu accès à ça, c'est venu plus tard. Donc ça a été vraiment ma première alerte.
Et du coup ta maladie, tu l'as gardée ?
Alors en fait, je me suis guérie pendant un certain temps. Et puis en fait après en montant l'agence et tout, je suis un peu retombée dans mes travers, c'est-à-dire que de nouveau je travaillais tout le temps. Alors en plus à l'époque j'étais en couple avec un archi, donc on était dans le même milieu, qui sont des milieux professionnels où en fait si t'es pas encore au bureau à 22h c'est bizarre, si t'es pas sur le chantier à 7h c'est bizarre. Donc, on s'entraînait en fait aussi mutuellement. Il y avait un espèce de truc où, quand j'étais aux ateliers de Paris, si j'appelais mon chéri à 23h et qu'il me disait qu'il était encore au bureau, je me disais, bon, bah, j'ai encore le temps de bosser, tu vois. Et puis, il passera à me prendre en rentrant. Enfin, donc, il y avait un espèce de truc où on s'entraînait dans un cercle vicieux. Donc, j'avais besoin de réussir. Parce que je voulais être indépendante, je voulais être autonome. Pour moi, c'était pas possible autrement. Et donc, de nouveau, je me mettais un stress énorme. Et puis, j'avais un rythme qui me convenait pas. Et donc, les douleurs, en fait, ont commencé à revenir petit à petit. Et donc, en fait, maintenant, aujourd'hui, j'ai compris que j'ai une grande chance et que étant hypersensible, mon corps me donne des signaux d'alerte très tôt. Alors, il y a aussi que j'ai appris à les écouter.
Ouais, c'est justement, tu vois, c'est un truc, j'en parlais hier avec une maman où je parlais du burn-out et elle me disait, bah, combien de temps ça dure, machin et tout. Et ce que je lui disais, c'est que c'est un peu comme quand t'as, enfin, moi, j'ai deux enfants, mais les symptômes quand t'es enceinte, ils arrivent beaucoup plus vite dans la deuxième grossesse et j'en parle pas, j'imagine, pour la troisième. C'est-à-dire que ton ventre, il va sortir plus vite, tu vas avoir des petits bobos, tu vas avoir des petits bobos liés à la grossesse qui vont arriver au troisième mois, alors que pour la première grossesse, ça sera au sixième ou septième mois. Et finalement, t'apprends à te connaître et puis aussi, ton corps, il réagit de façon plus violente, parce que il en a déjà souffert, entre guillemets.
Oui, oui, t'as complètement raison. Moi, je pense que j'ai vraiment abîmé mon corps, en fait, pendant l'adolescence et mes études. Et aujourd'hui, enfin, je vois bien, tu vois, aujourd'hui, j'ai 33 ans. À mon âge, il y a encore plein de gens qui peuvent se faire des nuits blanches et tout. Moi, je peux te dire que si je fais une nuit blanche, en fait, le lendemain, j'ai des vertiges toute la journée, je tiens pas debout.
Et ça, tu le dis comment?
Bah, en fait, ça a été assez difficile pendant, jusqu'à ce que je découvre, en fait, mon hypersensibilité, c'était difficile à vivre. Et en fait, quand j'ai compris que j'étais hypersensible et que ça jouait à différents niveaux, c'est-à-dire que ça jouait à la fois sur ma façon d'appréhender le monde, ma façon de raisonner, de fonctionner, tu vois, de travailler et tout, mais que ça jouait aussi, enfin ça impliquait aussi mon corps, et que du coup, bah en fait, par exemple, tu vois, j'ai les cinq sens qui sont extrêmement développés. Et d'ailleurs, quand j'avais mon agence d'archi, j'avais créé une méthode, en fait, je travaillais pas comme les autres agences d'archi, c'est-à-dire que j'avais créé une méthode où je concevais tout ce qui allait faire les perceptions sensorielles que l'être humain vit dans un lieu. Et donc, en fait, je m'appuyais sur mon hypersensibilité sans le savoir. Donc, comme mes cinq sens sont très développés, très vite, en fait, je sens quand il y a un truc qui va pas. Et avec le temps, avec la répétition, j'ai appris à décoder, tu vois, à savoir à quoi ça correspond. J'ai conscience aussi aujourd'hui que ça peut venir de l'extérieur, mais que ça peut aussi venir de moi, d'un stress que je génère ou d'une réaction, tu vois, que je peux avoir à une situation. Donc maintenant, je le sais, je le sens, je l'écoute et j'ai aussi cette chance, c'est que finalement, comme je le sens très tôt, bah, je suis pas à un stade, tu vois, de la maladie qui est déjà très 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 avancé. En fait, moi, je sens les choses très en amont. Et un jour, il y a un médecin qui m'a dit « Rendez-vous compte de la chance que vous avez, vous pouvez réajuster tout de suite », alors qu'il y a des gens qui restent comme ça pendant 10 ans sans le savoir. Et aujourd'hui, il y a des chercheurs hein, qui mettent en avant qu'un cancer, par exemple, ou une maladie chronique, en fait, quand elle se déclenche, eh bien souvent, c'est le résultat d'un déséquilibre qui peut avoir duré pendant 10 ans. Donc moi, je me dis, j'ai la chance finalement d'avoir… Alors, c'est un peu chiant au quotidien, faut être honnête, hein, parce que tu vois, du coup, je perçois tout super fort. Mais en même temps, je me dis, c'est une super chance. Je peux réagir vite.
Et comment tu le vis ou ton entourage le vit, par exemple, le fait que toi tu peux pas faire une nuit blanche, ou j'imagine qu'il y a des choses dans ta vie où il y a forcément un impact sur ta relation avec les autres.
Oui, c'est surtout mon rythme de vie en fait hein, qui a un impact. Tu vois, j'ai pas un rythme de travail du lundi au vendredi et puis week-end. Je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne en fonction de mon cycle d'énergie, qui, comme je suis une femme, est aussi liée à mon cycle naturel. Hein. Donc, je vais avoir des périodes très intenses où je peux me retrouver à travailler le soir, parce que le soir jusqu'à 22h, en fait, je suis très créative à cette période-là. Et puis, je peux dormir jusqu'à 11h ou midi, tu vois, certains jours. Enfin, donc, j'ai un rythme qui est en fait un peu un rythme d'artiste, quelque part, enfin, tu vois, qui est vraiment lié à moi. Donc, avec mon conjoint, ça demande des ajustements. On se lève souvent pas en même temps. Donc, en fait, on se met d'accord. C'est-à-dire que faut beaucoup communiquer. Moi, j'ai besoin de lui dire, tu sais, en ce moment, je suis dans une période comme ça. Donc, en fait, là, j'ai besoin que tu gères le dîner parce que moi, je vais pas pouvoir. Enfin, voilà, des choses comme ça. J'organise aussi mon agenda. Les gens qui travaillent avec moi savent que du coup j'ai des périodes où je vais être très disponible pendant 10 jours, 15 jours je vais mettre pas mal de rendez-vous parce que je suis vraiment disponible à l'autre. Et puis, il y a des périodes où pendant 15 jours, en fait, je vais mettre aucun rendez-vous. Ouais. Voilà, exactement. Donc, alors, ça se voit pas forcément de l'extérieur, parce que tu vois, chacun gère son agenda comme il veut. Après, les gens peuvent penser que je cours tout le temps. Tu vois, c'est leur vision, c'est pas grave. Par contre, avec les gens très proches, c'est plus dans le cercle amical, par exemple, tu vois, où moi, je suis dans un milieu plutôt d'entrepreneur, où il y a du coup cette valeur travail très forte, où il y a un peu cette croyance que en fait il faut travailler dur pour réussir, que c'est normal de pas avoir de week-end, etc. Bon, moi je suis plus là-dedans, donc je me sens un peu en décalage. Et puis un jour en fait j'ai pris la décision que ce qui était important c'était moi en fait, comment je me sentais, comment je vivais. Et qu'il fallait que j'arrive à me détacher du regard de l'autre. C'est pas toujours facile, hein. Il y a des fois, c'est un peu blessant. Il y a des fois, tu vois, des personnes autour de moi qui me disent, ah oui, mais toi, Anaïs, c'est compliqué. Bah, en fait, non. De l'extérieur, peut-être, oui, si tu veux répondre aux normes, aux codes, j'y réponds pas, donc ça te semble compliqué. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus fluide. En fait, j'ai arrêté de me suradapter. Et puis, les gens autour de moi qui sont ouverts pour que je leur explique, bah, je leur explique. Et d'ailleurs souvent quand je leur explique ça fait des déclics chez eux parce qu'ils se rendent compte que et d'ailleurs c'est de ça que je parle dans mes conférences ou même dans les accompagnements que je fais. J'ai créé un groupe d'accompagnement d'exploration de soi et de son rapport au monde et en fait par mon expérience j'amène les gens à vraiment aller se questionner sur leur rapport au temps, leur rapport au travail, à la réussite, leur rapport à la nature, parce que pour moi c'est un pilier. Et en fait je me rends compte qu'en osant faire différemment, en fait j'autorise les autres aussi à se dire c'est possible en fait de faire différemment. Mais c'est la suradaptation, enfin je pense que probablement toi aussi tu t'es suradapté pendant très longtemps.
Totalement, bien sûr, mais tu veux, moi ce que je dis c'est en fait tu peux cocher les cases des KPI de la réussite, d'avoir la super responsabilité, d'avoir le gros salaire, d'avoir la grosse équipe, d'avoir tout ça, mais en fait finalement il y en a sûrement à qui ça correspond, mais si c'est pas si tu le fais pour le regard des autres et tu le fais pas pour toi et que c'est pas ce qui te correspond, ton système il déraille et c'est pas très joli à voir.
Complètement. Et d'ailleurs dans ce que tu dis, c'est très important quand tu dis le faire pour soi. Moi, ce qui m'a aussi pas mal aidé, c'est en Alaska, j'ai commencé à percevoir vraiment mon ego et puis mon être intérieur. Et donc, en fait, en rentrant d'Alaska, à chaque fois que j'avais une décision à prendre, quel que soit le sujet, je me demandais toujours. Par exemple, tu vois, on m'avait proposé dans une association de prendre un poste à responsabilité. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, OK, si je dis oui, en fait, qui dit oui? Et en fait, je prenais conscience que, en fait, c'est mon ego, parce que je suis flattée, parce que ça fait pas longtemps que je suis dans l'assaut, parce que je suis une femme, que je suis jeune, machin. Mais en fait, mon être intérieur, il a pas du tout envie de ça, mais pas du tout. Et en fait, passer par ce filtre-là, ça m'a aidé aussi à faire des choix qui paraissent contre-intuitif pour la plupart des gens, alors qu'en fait ils sont hyper intuitifs, tu vois.
Ouais, c'est écouter son corps. C'était ma coach Joanne qui m'avait dit ça à l'époque. Elle m'avait dit, Charlotte, quand tu dois prendre une décision, écoute ton corps. Et en fait, c'est un truc de malade. Ton corps, il t'envoie des signaux de soit tu sens vraiment ton cœur ouvert, soit tu te sens ton corps complètement fermé. Et là, tu te dis OK, c'est QFD. Et du coup, par rapport à ce voyage en Alaska, quand est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de comment c'est né?
Alors, justement, du fait de l'expérience que j'avais, des sensations dans mon corps, et tu vois, j'ai senti, en fait, alors j'ai mis du temps à quand même accepter les choses, mais disons que en 2016, début 2016, je sentais déjà que j'allais pas bien. J'étais en train de commencer à rechuter. Alors en plus, à l'époque, mon conjoint faisait une dépression, il avait subi du harcèlement au travail et en fait, j'essayais de porter en plus notre couple. Enfin, tu vois, j'avais l'agence d'un côté, le couple de l'autre. J'essayais de sauver mon conjoint comme je pouvais et en fait, j'étais arrivée à un stade où je commençais à sombrer complètement. Et finalement, on s'est séparés de sa décision. Donc ça, ça a aussi été un séisme. Donc je cumulais un peu, tu vois, les trucs à ce moment-là. Et cette année-là, je suis entrée dans une association qui est extraordinaire, qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, une association d'entrepreneurs, le CJD.
Ouais.
Et en fait, donc j'ai commencé à rencontrer d'autres entrepreneurs et en fait là, j'ai commencé à comprendre que j'étais pas à ma place. C'est-à-dire que mon corps plus ce que j'entendais autour de moi, les discussions avec les autres dirigeants et tout, je me disais de plus en plus, mais en fait il y a quelque chose qui va pas, je sens que je suis pas au bon endroit. En fait, tout me fait mal, en fait tout est douloureux, tout est violent, tout est difficile. L'énergie que ça me demande, c'est énorme par rapport aux résultats, même si ça marchait, tu vois, mais je trouvais que ça me bouffait. Et en fait, il s'est quand même passé du temps, c'est-à-dire que je me suis accrochée en fait là-dedans jusqu'en 2017, fin 2017, où franchement, je pense que je pleurais tout le temps, j'étais pas bien, j'avais l'impression d'être dans un tunnel noir et de pas savoir comment j'allais m'en sortir et si je pouvais m'en sortir. J'avais plus envie de me lever le matin, j'avais plus envie d'aller voir mes clients. Je savais même pas pourquoi je faisais ce travail. Enfin, vraiment, les grandes questions existentielles de pourquoi je suis là, qui je suis, enfin, à quoi sert la vie. Et j'ai fêté mes 30 ans fin 2017. Et en fait, pour mes 30 ans, j'ai fait une très grosse fête. Je me suis vraiment fait plaisir. Et en fait, j'avais demandé, il y a un rêve d'enfant que j'avais pas réalisé, c'était le tour du monde. Et donc je me suis dit, tiens, pour mes 30 ans, je vais faire le premier pas, je vais dire aux gens, si vous voulez me faire un cadeau, il y a une cagnotte tour du monde. Et en fait, les gens ont vraiment, enfin, tu vois, ça a un peu commencé à donner corps à ça. Et puis mon chéri, que j'ai rencontré, mon chéri de l'époque au CJD. Enfin, et mon chéri de toujours, hein, on est toujours ensemble.
Le nouveau chéri qui est le
chéri. Voilà, le nouveau chéri, Olivier. on s'est rencontrés au CJD et en fait, lui, il m'a un peu, il m'a encouragée en fait dans ce sens-là, tu vois, à creuser ça. Et donc, très vite, en fait, j'ai fêté mes 30 ans, tu vois, c'était fin novembre. Et en fait, mois de décembre, je me suis dit, OK, mais en fait, si je continue comme ça, je vais dans le mur, en fait. Je connais l'issue. Je sais que je vais dans le mur, je pourrais pas m'en sortir. Et ça va pas, en fait. Enfin, en fait, j'ai eu une espèce de prise de conscience de tout d'un coup me dire, mais Anaïs, il faut que tu te sortes de ça, sinon tu meurs. Quoi. En gros, c'était... Et donc en fait, je me suis dit, ok, le tour du monde sur un an, en fait, j'ai trop peur de foutre en l'air ce que j'ai créé. Tu vois, j'avais quand même monté une boîte qui marchait et j'en avais chié pour le faire. Pardon pour l'expression, mais donc je voulais pas casser tout ça. Et donc en fait, en janvier, j'ai commencé à me dire, ok, je sais ce que je vais faire. En fait, je vais faire un bout de tour du monde que j'avais envie de faire. Et donc, quel est le meilleur moment pour faire ça sans mettre en péril toute l'entreprise que j'ai créée, ma clientèle et tout? C'est de le faire sur l'été, parce qu'en fait, l'été, les grosses boîtes, elles sont toutes en ralenti. Mes clients, ça se trouve, s'en apercevront même pas. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. J'ai des clients qui se sont même pas rendus compte que j'avais fermé pendant 3 mois. Donc, j'ai mis ça sur l'été. Donc, en fait, j'ai passé tout le début d'année à me préparer pour mettre toute l'activité en stand-by, les chantiers en stand-by, enfin voilà, tout. Ma vie parisienne, machin. On a aussi eu... J'ai beaucoup échangé avec Olivier, avec mon conjoint, parce que lui aussi, enfin, tu vois, c'était un peu étrange pour lui de me voir partir, enfin, tu vois, et donc il avait besoin...
Tu voulais forcément partir toute seule ?
Ouais. En fait, j'étais arrivée à un stade où j'avais besoin vraiment de solitude, de silence, de temps, de plus avoir l'agenda, les rendez-vous, machin. Et puis j'avais un besoin viscéral. Enfin, je sentais que si j'allais dans la nature, si j'allais me confronter à la nature, j'allais pouvoir peut-être retrouver qui j'étais. Donc, il a fallu aussi expliquer ça, tu vois, à Olivier. Et en fait, maintenant, avec le recul, tous les deux, on a compris qu'il avait accepté sans comprendre. C'est-à-dire qu'il avait accepté que j'avais besoin, mais lui, intellectuellement, voilà, il n'arrivait pas à vraiment savoir ce que j'avais au fond de moi. Mais il s'est rendu compte que c'était devenu vital et que si je le faisais pas, bah ça allait pas bien se passer. Et puis on a fait face quand même à beaucoup beaucoup de préjugés autour de nous. Alors je te dis pas tous les gens autour de moi qui me disaient non mais Anaïs en fait t'es complètement dingue d'aller en Alaska. Enfin non mais t'es folle, faut pas faire ça toute seule. Mon beau-père, qui d'ailleurs je crois se souvient même pas qu'il m'a dit ça, mais qui à table quand j'ai dit que j'allais partir en Alaska m'a dit mais ma pauvre petite tu vas te faire bouffer toute crue. Enfin tu vois j'ai eu des trucs vraiment en fait violents sans que les gens s'en rendent compte. Et puis on a aussi dans notre milieu, dans notre entourage amical, on a aussi des gens qui sont venus me dire mais en fait tu veux quitter Olivier mais t'oses pas lui dire. Non mais tu vois quand même des trucs vraiment et d'ailleurs enfin vraiment je me rends compte aussi de la chance que j'ai eue tu vois qu'Olivier il ait cette ouverture et cette capacité à m'encourager parce qu'il a été un vrai soutien pour moi et lui aussi il a fait face à tous ses préjugés.
Et pourquoi l'Alaska?
Alors en fait au début je devais faire le Transsibérien. Et quand j'ai commencé à me projeter et à préparer mon voyage et que je me suis rendu compte que les trains arrivaient en gare en plein milieu de la nuit, que j'ai commencé à me documenter et tout, en fait, je me sentais en insécurité totale de faire ça toute seule. Et c'était devenu un stress. J'en ai pas dormi pendant une semaine. Et donc là, j'ai écouté mon corps. En fait, je me suis dit, attends, Anaïs, t'es en train de préparer un projet de rêve et ça fait une semaine que tu dors pas parce que t'es stressée. Il y a un truc qui déconne. Et donc, je me suis écoutée et en fait, je me suis dit, bah, c'est juste que t'es pas prête pour faire ça, faut que tu fasses autre chose. Et en fait, j'avais trois ou quatre grands rêves. Enfin, mes grands rêves d'enfant, c'était faire le Transsibérien jusqu'en Mongolie. C'était aller en Alaska ou au Groenland. Enfin, tu vois vraiment les pays du Nord. Et c'était faire la Patagonie. Et en gros, j'étais attirée par les pôles. Je voulais aller au plus du plus au nord, au plus, tu vois, et au bout du monde au sud. Et donc, je me suis dit, bah, l'Alaska, c'était assez enthousiasmant pour me redonner envie, en fait, hein, pour me remettre en mouvement, pour me donner envie de me lever le matin. Et en même temps, c'était aussi hyper challengeant. Parce que l'Alaska, c'est une destination très sauvage. Et puis d'ailleurs, j'ai eu des doutes. Hein. J'ai eu des moments où je me disais, mais je suis complètement folle, en fait. J'ai choisi la seule destination où il n'y a pas un seul guide touristique dessus. Donc, tu vois, j'ai eu des phases de doute. Hein. Et puis finalement, j'ai réussi à partir. Ça m'a demandé de faire face à plein de peurs. Et là
c'était
aussi,
quoi ces peurs?
J'ai eu déjà les peurs de quitter ce que j'avais créé, de quitter mes habitudes et tout. Donc là, j'ai mis en place les choses comme je t'ai dit pour me rassurer. Et donc j'ai fait ça sur l'été. Après, j'avais vraiment peur pour ma sécurité. Et je crois que j'ai grandi dans un milieu où j'avais intégré qu'être une femme, c'était être vulnérable par rapport à un homme et qu'en tant que femme, en fait, on ne pouvait pas faire tout comme les hommes. Donc ça, en fait, quand j'ai compris cette peur-là, je me suis dit, il faut que je me sente actrice de ma sécurité, en fait, il faut que je me sente capable, assez forte, en fait. Et donc, je me suis inscrite à une association de self-défense qui a été créée par des gars du RAID et du GIGN et qui s'adresse que aux femmes. Et d'ailleurs, je donne le nom parce que ça s'appelle Lady System Defense. Ils sont à Paris. Et vraiment, alors moi, faut savoir que j'ai fait des arts martiaux pendant presque 15 ans, hein, dans mon enfance et adolescence. Donc, j'avais quand même déjà un peu, tu vois, travailler ça. Et donc, d'aller dans cette association, ça m'a beaucoup aidée à retrouver confiance. Et j'ai fait des mises en situation. Il nous faisait faire à chaque stage, en fait, c'était une thématique. On a eu agression dans le métro parisien, on a eu situation d'attentat, on a eu une session qui était spécifique en comment gérer son stress, en fait, et ils nous ont mis en état de stress très élevé. Et donc, en fait, tout ça, bah, en fait, ça m'a appris mes capacités, ça m'a redonné confiance en moi. Et j'ai travaillé mon mental et je me suis préparée physiquement aussi en allant en musclant mon dos. Enfin, tu vois, c'est tout con, mais je suis allée à la salle de sport pour muscler mon dos en me disant, mais en fait, j'ai besoin de pouvoir porter mon sac, de pouvoir être dynamique. Enfin, donc vraiment, je me suis préparée mentalement et physiquement.
Voyage, il était prévu. T'avais fait un planning ou tu t'es laissé guider?
Alors j'avais fait en fait en Alaska c'est très compliqué de se déplacer parce que alors surtout la partie que je faisais en fait j'ai fait toute la partie sud de l'Alaska où en fait les villes ne sont pas reliées entre elles par des routes. Donc du coup en fait en gros j'avais pris un vol Paris-Vancouver, je m'étais prévu 3-4 jours à Vancouver le temps de m'adapter, de décompresser. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que c'était grosse déprime à l'arrivée. Et puis après, j'avais réservé une place sur le ferry, en fait, qui part des États-Unis, de Bellingham, pour aller en Alaska. Et en fait, ce ferry, t'en as un tous les... à l'époque, c'était l'été, il devait y en avoir un tous les 7 ou 10 jours, tu vois. Donc, j'avais pris mon billet parce que sinon, c'était pas possible. Donc j'avais pris mon billet pour aller jusqu'au premier port en Alaska. Et puis j'avais mes premiers transports, c'est-à-dire que j'avais réservé un bateau ou un avion entre tel et tel port, tu vois, parce que en fait je savais que c'était compliqué et que les transports grosso modo c'était tous les 7 jours ou 10 jours voire même 15 jours dans certains endroits.
Une notion du temps un peu différente.
Oui, mais c'est pour ça que j'avais choisi. Hein. C'est parce qu'en fait, j'avais vraiment besoin de me confronter au vide et de me retrouver dans des endroits où en fait, j'aurais rien à faire et voilà en fait. Et ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Donc du coup, j'avais un peu préparé, tu vois, le début, les transitions et pas la fin. Et en fait, et puis il y a aussi des choses que j'ai changées. Enfin, tu vois, je me suis un peu après laissée porter par le fil. Et d'ailleurs, le retour a été très très dur parce qu'en fait, j'étais dans le rythme lent et tout. Alors, j'avais fait quand même, c'est important de le dire pour par rapport au conjoint, enfin tu vois, à l'entourage, j'avais fait un truc, j'ai fait un compromis pour Olivier, enfin pour notre couple aussi, c'est que je suis pas partie 3 mois complets en Alaska. Je suis partie moins et en fait, on avait convenu avec Olivier d'un point de rendez-vous. Donc, on devait se retrouver à Vancouver. Bon, finalement, on s'est retrouvés sur l'île de Vancouver à Victoria pour ensuite faire 1 mois tous les deux.
D'accord.
Et ça, c'est important de le dire parce que c'était aussi… tu vois, c'était notre façon aussi à tous les deux de pouvoir…
Moi, j'avais ce projet. Un truc.
Oui, ouais. Voilà, j'avais.
Parce que sinon, t'es complètement ouais. Sur une autre planète et lui, potentiellement, et pour oui. Le couple, c'est compliqué, quoi.
Oui, oui, et puis j'avais aussi envie, tu vois, de faire un pas vers lui. Tu vois, c'était aussi une façon de l'intégrer quand même dans mon projet. Et d'ailleurs, ça a été une expérience géniale. Moi, ça a été un peu dur de passer du solitaire à tous les deux, hein. D'ailleurs, je lui ai pas caché, j'ai eu plusieurs jours avant qu'il arrive. Je l'attendais, j'ai pleuré pendant 4 jours d'avoir quitté l'Alaska et puis de savoir qu'en fait, ça être à deux, c'est pas pareil que d'être seule. Hein. Donc, j'ai eu une phase de transition difficile. Mais après, le temps qu'on a passé ensemble, c'était génial et on s'est aussi découvert différemment, tu vois, sans toutes les contraintes du quotidien et tout. Voilà, et puis après il y a eu le retour, comment ça s'est fait, et puis j'avais aussi une peur de l'argent. Donc, on a parlé des peurs en fait avant de partir. J'avais aussi une peur liée à l'argent, hein, de me dire en fait si j'arrête pendant 3 mois, ça veut dire pas de rentrée d'argent, ça veut dire pendant ce temps-là je prospecte pas, donc est-ce que j'aurai des contrats en rentrant. Enfin voilà, il y avait quand même tout ça. Et donc, en fait, j'avais ma cagnotte de mes 30 ans. Et puis, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que, de janvier jusqu'à mon départ, début juillet, j'ai énormément réduit mon mode de vie pour économiser, parce que j'avais besoin de ça pour me rassurer. Et puis aussi parce que je commençais à entrer dans une phase qui s'est poursuivie après à mon retour de me défaire en fait de tout le superflu, aussi bien matériel que dans les amis, dans les relations.
C'est ce que j'avais demandé. Ouais, ce qui a changé du coup dans ta vie suite à ton retour.
En fait, j'ai fait un gros tri. Je me suis rendu compte en Alaska qu'en fait j'étais beaucoup plus heureuse avec beaucoup moins matériellement. Donc d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai mis en fait les 3 mois de retour d'Alaska, en fait j'ai porté les mêmes vêtements que ceux qui étaient dans mon sac, donc 2 pantalons et 3 t-shirts, hein. Je n'arrivais pas en fait à retourner à ma garde-robe de parisienne et tout, j'avais l'impression que tout ça c'était inutile. Donc du coup j'ai appris que j'avais besoin de beaucoup moins, donc du coup j'ai complètement changé ma façon de consommer, je consomme beaucoup moins. Je me suis délestée de tout un tas de choses matérielles. J'ai appris à lâcher plus facilement aussi des périodes de ma vie. Enfin, tu vois, on a tendance aussi parfois à ressasser le passé et tout. En fait, j'ai appris qu'il fallait que je me délaisse de tout ça pour laisser place au nouveau. Et puis, mine de rien, il y a un tri aussi qui s'est fait. Parfois assez naturellement et puis parfois en étant beaucoup plus consciente. Tu vois, il y a des relations. En fait, quand je suis rentrée, j'ai mis de l'attention dans mes relations. Je me suis demandé à chaque fois que je passais du temps avec quelqu'un, je me demandais comment je me sentais. Et à la fin, quand j'étais plus avec la personne, je me disais, mais en fait, est-ce que je me sens mieux qu'avant d'aller la voir, ou au moins aussi bien, tu vois, ou est-ce qu'au contraire, je me sens plus mal? Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de gens où je me sentais plus mal après les avoir quittés. Et donc, en fait, tous ces gens-là, je les ai jamais rappelés.
Comment ton entourage, il l'a vécu?
Écoute, du coup, l'entourage a évolué. C'est-à-dire que j'ai fait entrer de nouvelles personnes dans mon champ, tu vois, on va presque dire dans mon champ d'énergie. En fait, j'ai pas eu tellement de réflexion. Ça s'est fait comme ça. Tu vois, par exemple, j'ai des amis que j'ai depuis presque 15 ans. Et qui savent que on avait des amis communs, et du coup ces personnes-là, moi je les côtoie plus. En fait, ça a été accepté. Ça a été accepté plutôt. Je crois que j'ai pas tellement laissé la place. Je crois que j'étais tellement alignée avec moi-même ma boussole, c'était moi en fait, c'était l'état dans lequel je me sentais. Que du coup, je pense que les gens qui sont restés dans mon giron, qui sont restés proches, voyant que j'ai été dans une démarche où en fait j'allais mieux, du coup, enfin tu vois, j'ai pas eu tellement, il y avait pas tellement de sujets quoi. Et l'entourage est très important. Hein. Tu peux avoir un entourage qui te plombe complètement.
Bien sûr.
Et au contraire, avoir un entourage qui t'aide à te sortir de ce qui te va pas, de ce qui te convient pas, et à prendre tes responsabilités aussi. Et moi, je me suis toujours dit que j'étais responsable à 50% de ce qui se passait.
Ouais, c'est savoir accepter potentiellement d'être entouré de moins de personnes, mais que des personnes qui te génèrent de la bonne énergie et qui ne te consomment pas ton énergie. Et professionnellement, ça a changé quoi du coup dans ta vie à ton retour de l'Alaska?
Alors au début, rien, parce que je me suis contrainte, hein, c'est-à-dire que j'avais des contrats en fait que je devais reprendre, donc au début. Très vite, je me suis retrouvée dans le nouveau rythme et tout. Ce que ça a changé, il y a quand même un truc que ça a changé, c'est que j'ai arrêté de me faire du sang d'encre pour toutes les petites merdes du quotidien, donc pour me protéger. Et puis en fait, hyper vite, les mois ont commencé à passer et j'avais plus de doute sur le fait que j'étais pas à ma place, malgré. Parce que ce que j'ai pas dit quand même, c'est que tout mon entourage entrepreneurial, ne comprenait pas pourquoi je voulais arrêter mon agence, pourquoi je disais que j'étais pas bien. C'est-à-dire que j'avais une espèce de mouvance derrière moi de « Mais Anaïs, en fait, ce que tu fais, c'est génial, faut continuer. Enfin, tu te rends pas compte, t'as fait des super trucs, t'as fait des expos internationales. Enfin, vas-y, quoi. Continue, continue. » Et en fait, moi, là, j'avais plus de doute. En fait, je savais que ça me convenait pas. Donc, en fait, j'ai arrêté d'écouter ce qu'on me disait. Et je me suis dit, il faut que petit à petit, je me sorte de tout ça. Et j'ai conscientisé que, en fait, il fallait que j'arrête mon activité professionnelle, que ça me convenait plus. Et j'ai fini par comprendre pourquoi. Donc, j'ai même écrit un article sur le sujet qui m'a aidée, tu vois, aussi à comprendre pourquoi j'arrêtais. Et puis, je me suis fait accompagner par cette coach dont on a parlé au début pour identifier mes talents, etc. Ça m'a aussi aidé à comprendre que, en fait, l'activité que j'avais avec mon agence d'architecture d'intérieur, et je faisais aussi du design d'expérience client, parce que comme je tiens pas en place et que j'aime bien la nouveauté, tu vois, j'avais quand même fait beaucoup évoluer mon agence au fil des années. Mais j'ai compris que, en fait, cette activité professionnelle, j'étais tombée dans ce que j'appelle le piège de la compétence. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais tout à fait capable de faire ce qu'on attendait de moi dans ce métier. Mes clients étaient contents. Mais en fait, pour arriver à ça, je capitalisais sur des traits de ma personnalité qui poussaient à outrance, devenaient du poison pour moi.
Et notamment. C'était dans ta zone d'excellence et pas dans ta zone de génie, en fait. C'était dans la zone où tu étais excellente, mais tu n'avais pas ce petit supplément d'âme qui faisait qu'en fait, tu faisais vraiment ce pourquoi tu étais fait, quoi.
Exactement. Et donc, en fait, je poussais à outrance mon exigence, mon perfectionnisme, et je me faisais mal, en fait, en faisant ça.
Ça
donc,
me parle en comprenant.
Voilà. Bon, du coup, en comprenant tout ça, j'ai fini par prendre la décision, en fait, d'arrêter complètement. Ça a été assez brutal, d'ailleurs, pour certains de mes clients, en fait, parce que je parlais pas, en fait, de tout ce que je faisais, tu vois, tout le cheminement personnel. Donc ça, c'était en 2019. Et en fait, en novembre 2019, je me suis dit, OK, j'ai fait une super année. J'ai fait même la meilleure année de ma vie. Mais en fait, il faut que j'arrête parce que si je continue comme ça, dans 10 ans, je suis toujours là. Donc, en fait, je me suis dit, je profite de la fin d'année. Les assurances professionnelles, tout le barda, ça doit être renouvelé au mois de janvier. Là, il y a décembre qui arrive. J'arrête. Et donc, en fait, je me suis fait accompagner, pour m'aider à arrêter. J'ai eu une fin d'année compliquée avec des clients qui comprenaient pas, et pourtant je les ai pas laissés tomber. Enfin, tu vois, j'ai arrêté parce que les contrats arrivaient enfin. J'ai mis en place des équipes qui étaient en mesure, que j'avais formées, qui étaient en mesure de reprendre après et tout, parce que j'ai un niveau d'exigence professionnelle qui fait que voilà, je m'étais aussi mis la pression en mode si je me retire, il faut quand même que tout continue et tout. Mais bon, voilà, du coup, je me suis tenue à ça. Je me suis dit, mi-novembre, j'arrête. Fin décembre, j'arrête. Donc, j'ai tout arrêté. Et avec une grande peur, c'est que je savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais j'avais fait le switch dont t'as un petit peu parlé. C'est-à-dire que, en fait, j'avais pris conscience que j'avais des talents. Que, en fait, quand je faisais certaines choses, c'était hyper fluide, hyper facile, que j'y prenais du plaisir. Et donc, en fait, j'avais pris la décision que mes activités professionnelles, eh bien, ce seraient des choses où je prends du plaisir, où c'est facile, où c'est fluide, et que, en fait, je ne crois plus à cette croyance qu'on avait ancrée en moi que pour réussir, il faut travailler dur, que pour gagner de l'argent, tu vois, il faut souffrir. Ouais, exactement. Donc, du coup, j'ai fait un peu le saut dans le vide en mode, wouhou, je sais pas ce que je vais faire, mais j'y vais et ça me plaît trop, quoi. Et en fait, bah, tout s'est décanté super vite en me reliant à en suivant les synchronicités, en me reliant à mes talents. Il y a une espèce de magie qui a opéré et qui a fait que je me suis aussi réconciliée avec ce qui me faisait vibrer quand j'étais gamine, c'est-à-dire avec l'écriture, avec la philosophie, avec la découverte de soi, comprendre comment on fonctionne, etc. Et en fait, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis mis à publier mes articles, que j'ai été, qu'on m'a proposé de faire une conférence TEDx pour partager mon parcours et pour partager ce switch en fait que j'avais fait. En fait, j'ai l'impression d'être sortie d'un tunnel complètement sombre pour être entrée dans quelque chose de presque monde des bisounours, où tout se passe bien, où tout est doux, où tout est joyeux. Et en fait, quelque part, je sais très bien que pour des gens qui sont dans la période sombre, ça paraît un peu fou et pas possible, parce que moi, j'ai été comme ça pendant un temps. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, en fait, aujourd'hui, c'est fluide et c'est respectueux de moi-même, de mes envies, etc. Mais parce qu'en fait, ma boussole, c'est moi. Et je me tiens à cette boussole. Et en fait, se tenir à cette boussole, ça, par contre, ça demande parfois du courage. En fait, ça demande parfois de faire des choix qui sont pas simples à faire. Et notamment, tu vois, typiquement, arrêter mon agence, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Mais franchement, ça a été un choix qui m'a demandé beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Je suis maintenant vraiment mon intuition et ça passe par le corps. Mais en même temps, j'ai envie de dire que parfois, pour aller vers cette zone de confort et cette zone où tout est plus facile, où tout est plus intuitif, ça implique de faire confiance à cette intuition et donc ça implique de faire parfois des choix où tout autour de toi les gens te disent mais en fait t'es complètement dingue, tu vois, arrêter mon agence, personne n'a compris hein, autour de moi.
Et du coup aujourd'hui comment tu gagnes ta vie?
Alors aujourd'hui en fait déjà j'ai comme boussole les sentiments que j'ai envie de vivre dans ma vie, et donc ces sentiments, je me rends compte que je les vis à travers trois piliers qui sont essentiels dans mon quotidien et donc ça infuse dans mes activités professionnelles. C'est prendre soin de moi d'abord parce que c'est vital. En fait, je peux pas faire autrement. C'est me relier à la nature et m'ouvrir à l'être pour mieux faire et plutôt que d'être dans l'avoir à tout prix, tu vois. C'est cultiver l'émerveillement, cultiver l'état de présence, l'état d'être, etc. Et donc, en fait, finalement, aujourd'hui, mes activités, elles sont toujours créatives parce que j'ai quand même un fil rouge, tu vois. Aujourd'hui, j'ai trouvé que le fil rouge dans ma vie, c'était le sensible, le sensoriel dans tout ce que j'ai fait. Même quand je faisais de l'expérience client, j'avais une méthode que personne d'autre avait parce que j'étais allée chercher dans la recherche tout travail sur les émotions, sur les sensations, etc. Donc, j'ai ce fil rouge de perception sensible, sensorielle, et puis de créativité. J'ai toujours créé, en fait. C'est juste qu'avant, je créais en faisant des luminaires ou en faisant des espaces VIP ou des restaurants. En fait, aujourd'hui, ma création, elle passe par l'écriture, beaucoup, parce qu'aussi, ça me fait du bien. Parce que aussi ça me permet d'aller plus loin dans mon cheminement. Donc l'écriture, eh bien je le diffuse à travers mon blog, à travers la presse. C'est-à-dire j'ai des magazines qui prennent mes articles pour les publier parce que ça les intéresse. Et puis.
Du coup, t'es rémunérée pour ça ?
Alors la presse, pas encore. Et je sais pas d'ailleurs. C'est une question, tu vois. Il y a eu un moment, je me suis dit, oh, ce serait cool que je sois rémunérée, mais en fait. Si je suis rémunérée, je vais avoir moins de latitude parce qu'il va falloir rentrer dans une charte éditoriale et tout. Donc, en fait, finalement, je crois que j'ai besoin de nourrir ça sans forcément, tu vois, que... En fait, ça me rémunère différemment. Ça me permet de diffuser ce que j'ai à dire à une audience beaucoup plus large et d'attirer à moi les personnes pour qui je peux être utile. Donc, pour l'instant, je suis pas forcément dans cette volonté que cette partie-là me rémunère financièrement. Par contre, j'ai auto-édité deux carnets d'auto-coaching. Là, je suis en train d'écrire un livre beaucoup plus conséquent. Et je me suis mise en recherche d'un éditeur. Mais je pense que même si je trouvais pas d'éditeur, dans ces cas-là, je l'auto-éditerais. Mais c'est un projet important pour moi et c'est un rêve de petite fille.
Et tu fais des conférences aussi?
Et puis, j'ai toute la part, si tu veux parler de l'activité plus rémunératrice, la part conférence est très importante. Donc, maintenant, je suis conférencière professionnelle. Donc, j'ai un agent et je fais beaucoup de conférences en entreprise. Donc, là, évidemment, c'est rémunérateur. Et puis, je fais aussi des conférences grand public. Et là, tu vois, je suis en train de je suis en contact avec une entreprise pour faire des conférences grand public que je pourrais enregistrer et qui seraient accessibles, tu vois, via mon site internet. Et puis, j'ai les groupes d'exploration dont j'ai parlé tout à l'heure, où voilà, j'accompagne des gens qui… alors, j'ai des profils très variés, mais souvent, il y a un gros questionnement, un peu comme j'étais quand je suis partie en Alaska, hein, parce que moi, j'ai créé ces groupes d'exploration pour créer le cadre sécurisant que j'ai pas eu, hein, dont j'avais besoin pour pouvoir honorer toutes les questions que voilà qui remontaient et qui me dépassaient complètement et qui faisaient peur à mon entourage, où tout le monde me disait oulala, mais attends, mais pourquoi tu te poses des questions aussi existentielles, juste tu devrais aller au travail et pas te poser de questions. Donc voilà, j'ai vraiment créé ça pour ces gens-là. Et puis pour les gens qui sentent qu'ils ont un rythme qui est complètement décalé par rapport à leur corps, à leurs besoins. Donc il y a des gens qui ont fait des burn-out, qui sortent de surmenage. Et puis j'ai des gens qui se posent beaucoup de questions sur qui sentent qu'ils sont plus au bon endroit, mais ils savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Et donc en fait, moi je les amène vraiment à se recentrer sur eux. Je m'appuie sur mes trois piliers dont j'ai parlé et je les accompagne à travers tout ce que j'ai exploré, puisque là maintenant j'assume d'avoir cette casquette multipotentielle d'exploratrice, où je suis pas experte dans un sujet, mais j'agrège en fait plein d'approches différentes et un peu tout ce qui moi m'a servi, tu vois.
Ouais. Et comment tu célèbres toi tes réussites ?
Alors de plein de façons. Alors déjà en mettant de la conscience dessus, c'est la première chose. Donc souvent je le fais d'abord toute seule. J'ai des petits rituels au quotidien. Qui sont liés aux saisons, à la nature et qui me permettent aussi à chaque fois de faire le point sur moi, où j'en suis, comment je me sens. Et du coup, je fais aussi le point sur ma voie professionnelle, tu vois, où ça en est, ce que j'ai réussi, les étapes que j'ai franchies, aussi parfois les choses pour lesquelles j'étais pas prête. Tu vois, par exemple, le TEDx, typiquement, c'était complètement magique parce que c'était donc en mars de cette année. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait mon rituel de passage d'année de 2020 à 2021, et ben en fait, j'ai conscientisé que ça y est, je me sentais prête en fait pour faire un TEDx. Ça faisait 10 ans que je savais qu'un jour j'en ferais un, mais en fait, je savais pas du tout de quoi j'allais parler. Hein. Et tu vois, et là, bizarrement, tout d'un coup, quand je me suis posée pour prendre du temps, pour célébrer ce qui s'était passé en 2020 et mettre de l'intention, enfin voir quelles étaient mes intentions pour 2021. Bah là, j'ai conscientisé que ça y est, en fait, je me sens axée, je me sens prête pour faire un TED et je sais de quoi je peux parler. Et bah genre 3 semaines après, j'étais au téléphone avec un mec qui est devenu mon agent d'ailleurs maintenant, mais et qui à ce moment-là, tu vois. On discute pour faire connaissance, machin, et puis il me dit, ah mais au fait, tu veux faire un TEDx, mais attends, il manque un speaker pour un TED qui a lieu dans un mois. Si tu te sens capable de le faire en un mois, bah banco quoi, t'y vas. Et j'ai appelé les organisateurs et tu vois, je me disais peut-être que je serais pas dans le thème, tu vois, je me disais pourvu que mon histoire soit dans le thème et tout. Et en fait. Je leur ai proposé 2 sujets et ils m'ont dit « Non, mais en fait, vous êtes complètement dans le thème. En plus, on voulait une femme. En plus, entrepreneur.
Ouais, » C'était la belle synchronicité.
Ah, mais complètement. Ouais. Et en plus, j'ai eu la chance qu'ils me laissent le choix. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit « Les 2 thèmes nous plaisent. Vous choisissez, quoi. » Donc, le truc royal, vraiment extraordinaire. Et tout a été comme ça. Après, j'ai suivi les synchronicités. C'était extraordinaire, cette expérience.
Génial. C'est quoi pour toi la réussite ?
Alors, je prends le temps hein, pour moi, la réussite, c'est en fait, c'est me sentir bien, me sentir à ma place quand je suis quelque part. C'est vibrer, et donc pour vibrer, ça veut dire être très présente dans ce que je fais, mais aussi dans les relations que j'ai. Et tout à l'heure, tu disais moins de relations et plus qualitatives. Et en fait, c'est vrai que moi, je suis un peu dans un minimalisme maintenant. Et d'ailleurs, tu vois, j'apprécie beaucoup que pour ton podcast, tu prennes le temps, en fait, vraiment, parce que j'ai été interviewée sur d'autres podcasts où on parle 20 minutes et où la personne, elle s'intéresse pas du tout, en fait. Il n'y a pas de courant qui passe, il n'y a pas de, tu vois. Moi, j'ai vraiment besoin de cette présence maintenant. Donc pour moi, la réussite, en fait, c'est d'abord ça. C'est d'abord me sentir bien, sentir que, en étant moi, je suis utile aux autres. Et puis, bien sûr, c'est aussi dans tout ça, il y a une dimension aussi financière, économique. Même si dans mes réflexions philosophiques, je m'interroge beaucoup sur ce que pourrait être un monde sans argent, parce que je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement freinés par ça. Donc, pour des réflexions, je pousse les choses vraiment loin. Mais aujourd'hui, concrètement, dans mon quotidien, c'est pouvoir gagner pas forcément beaucoup d'argent, mais en fait, c'est avoir confiance que j'aurai toujours l'argent dont j'ai besoin pour faire les choses qui me parlent, qui me portent. Et tu vois, j'investis beaucoup sur moi. J'ai toujours beaucoup investi en développement personnel, en coaching, en formation. J'ai un gros budget de développement personnel. Certaines années, ça va jusqu'à 20-25 000 euros par an. Donc, ça peut paraître énorme, mais en fait, j'ai cette confiance que si je suis à ma place, eh bien, les choses sont fluides et que l'argent, c'est une énergie et qu'en fait, elle doit circuler, en fait, et que c'est pas une énergie à garder, tu vois. Elle me permet de faire des choses et je la redistribue en moi, me formant, en avançant, etc.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Anaïs de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Je pense que, tu vois, je suis émue par cette question, toujours. Parce que je pense que la petite Anaïs de 6 ans, elle me dirait, en fait, bravo, tu m'as sauvée, quoi. Et ça, c'est en fait, je pense que c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Et j'ai vraiment l'impression, tu vois, les deux burn-out que j'ai vécu, ils ont été différents parce que le premier, il était très lié à la santé, à mon corps, et le deuxième, il était, même s'il était lié à la santé, il était beaucoup plus lié à des questions de sens de la vie. Et en fait, j'ai vraiment retrouvé le goût de vivre. Et en fait, ça, enfin, pour moi, quand je pense à la petite fille que j'étais, qui comprenait pas en fait que les adultes aillent s'enfermer dans des bureaux, qui comprenait pas le sens en fait que ça avait d'aller travailler à l'école pour ensuite aller travailler dans une entreprise où j'entendais les adultes se plaindre tout le temps, tu vois, de c'était trop dur, de faire des trucs qui leur plaisaient pas, des horaires, de pas gagner d'argent et tout. Et en fait, je me dis finalement, il y a certaines personnes qui me voient un peu comme une extraterrestre, mais en fait, pour moi, la réussite, c'est d'être d'avoir en fait le rythme de vie, le quotidien et les actions qui me font du bien. Et tu vois, je pense que la petite Anaïs, elle serait fière de moi parce que aujourd'hui, j'ai un tiers de mon temps qui est dédié à explorer, donc à lire, à m'inscrire à plein de formations, à vraiment à voyager aussi, tu vois. Parfois, je pars pendant un mois. Je vais pas forcément loin, hein, tu vois. Je peux aller dans les Alpes, en Auvergne, en Bretagne. Mais je continue d'explorer. Et en fait, j'ai besoin de ça. Et j'ai un tiers de mon temps qui est dédié à mes activités professionnelles, qui me nourrissent aussi. Et puis, j'ai un tiers de mon temps, en fait, qui est dédié à rien, en fait, dans lequel je prends le temps de contempler, dans lequel je prends le temps de pouvoir passer une après-midi avec une amie, à discuter en étant pleinement présente. Et en fait, quand je vois le chemin qu'il a fallu faire, c'est aussi pour ça que pour l'instant, je m'attaque pas à l'éducation, tu vois. Et moi, j'ai pas d'enfant, donc je m'attaque pas encore, tu vois, à ce sujet-là. Mais pour moi, il y a un sujet énorme, en fait, de l'éducation, parce que j'ai l'impression qu'il m'a fallu tellement de temps et de courage et de résilience pour déconstruire en fait tout ce qu'on m'a forcé à faire et le cadre dans lequel il fallait que je rentre, que je me dis que En fait, il faudrait qu'on transforme complètement l'école. D'ailleurs, peut-être, je sais pas si tu connais, mais je me suis toujours dit que si un jour j'avais des enfants, il faudrait qu'ils soient dans une école où ils sont dans la nature. Je sais pas si tu connais un peu ces écoles-là, mais j'ai découvert qu'il y avait des écoles où les enfants, quelle que soit la météo, en fait, sont à l'extérieur et ils apprennent tellement de choses sur eux. En fait, ils apprennent qui ils sont. Ils découvrent qui ils sont et on les encourage dans cette voie-là. Voilà, j'ai fait une réponse super longue pour ta question, mais...
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi, du coup, tes renoncements à toi dans cette nouvelle vie?
Ah ben, il y a des renoncements qui ont été difficiles sur le moment, mais j'ai renoncé au fait que mon bonheur, en fait, c'était pas construire une grosse agence. Parce qu'en fait, quand j'ai monté mon entreprise, je m'étais fixée qu'on soit au moins 10 personnes 5 ans après. Je voulais embaucher des gens en CDI. Enfin, tu vois, j'avais une espèce de fierté je vais donner du travail aux gens, tu vois. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que c'était mon ego et que ça me rendait pas heureuse, que c'était pas moi, que c'était ce que la société m'avait inculqué. Donc ça, c'est un renoncement quelque part. J'ai renoncé à monter une grosse entreprise. Quand je suis rentrée d'Alaska, j'ai développé un projet d'application mobile pour les femmes, pour les rendre plus actrices de leur sécurité et leur donner confiance quand elles sont seules en voyage. J'ai failli m'associer avec une application qui existe aujourd'hui, donc avec la créatrice de cette application. Et en fait, je l'ai pas fait parce que quand je suis sortie de, on a fait plusieurs rendez-vous, et quand je suis sortie de rendez-vous et que j'ai pris conscience qu'en fait, elle se voyait implantée sur tous les continents dans 6 mois avec 300 collaborateurs, faire des levées de fonds. Et en fait, j'ai renoncé à ça. C'est-à-dire que j'ai pris conscience qu'en fait, ça me rendait pas heureuse, que c'était pas moi. Et j'ai aussi, je crois, accepté que j'avais pas besoin de me prouver que j'étais capable de faire ça. Que en fait, je pouvais avoir confiance en moi, que si je décidais de le faire, je savais qu'en fait, je pouvais y arriver, de faire des grosses levées de fonds et tu vois, d'aller pitcher partout et d'avoir plein de labels high-tech, machin. Et comme j'ai pris conscience que j'avais plus besoin de me prouver que j'en étais capable et que ça me rendait pas heureuse, bah du coup j'y ai renoncé quelque part, tu vois. Donc c'est un renoncement qui sur le coup est un peu difficile parce que ça chamboule beaucoup, mais j'ai envie de dire que une fois que cette étape-là est passée, c'est vraiment libérateur.
C'est sûr. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie?
Je crois que c'est mon burn-out dans les années dont je t'ai parlé, là, 2016-2017. Je crois que c'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment ce changement en fait, c'est ça, c'est renoncer au fait que, en fait, j'étais pas faite pour manager, pour monter une grosse boîte et que, parce qu'en fait, j'avais associé ça avec être quelqu'un de bien, j'avais associé ça avec la réussite, j'avais associé ça avec être professionnel. Donc en fait, je crois que ça a été ça le plus difficile, de traverser tout ça et de comprendre que c'était pas ma voie, et de mettre aussi ma joie en fait et mon bien-être avant la réussite sociale, tu vois. Ouais, ça a été le plus dur, ça a été le plus long en fait. Je pense que sinon j'aurais été plus vite.
De quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
C'est une question qui est un peu difficile pour moi parce qu'en fait maintenant j'ai chaque fois qu'il y a de la fierté qui pointe, je me dis Anaïs, c'est ton ego. L'ego c'est bien, mais c'est pas ton être, tu vois. Donc du coup, maintenant, je suis toujours un peu plus nuancée sur le sentiment de fierté. Donc c'est une question qui est pas facile. Je dirais que si, je sais. En fait, je pense que ce qui me rend fière, mais aussi parce que ça me rend joyeuse, c'est d'avoir osé aujourd'hui. J'ose en fait partager ce que j'ai vécu. J'ose montrer qui je suis, dire qui je suis. Et tu vois, tu parlais de l'entourage tout à l'heure. En fait, c'est accepter sa vulnérabilité. Donc, c'est aussi accepter que parfois, je puisse me prendre des choses qui fassent mal. Tu vois, notamment, on est un animal social, donc on a besoin de se sentir accueilli, aimé, accepté. Et en fait, parfois, je me sens vraiment en décalage par rapport aux autres. Donc, c'est pas toujours confortable. Mais je crois que c'est ça, en fait, qui me rend le plus fière. Et tu vois, quand le TEDx, ça a été une étape vraiment importante pour moi parce que c'était la première fois. Puis là, en plus, je montais sur scène. Donc, tu vois, symboliquement, c'était quand même la première fois que j'osais vraiment être qui je suis. Et d'ailleurs, j'ai fait l'exercice TED à ma façon. C'est-à-dire, je ne suis pas complètement rentrée dans les cases de l'exercice TED. Et je me souviens que une de mes coaches me disait, oh là là, mais tu peux pas démarrer comme ça, tu te rends pas compte, ça va pas. Et en fait, je suis restée, alignée avec moi-même. Et donc, en fait, je crois que c'est ça qui aujourd'hui me rend fière, c'est oser montrer qui je suis, même si je sais que du coup, bah, je suis vulnérable. C'est l'accepter.
Ah, c'est vrai.
C'est hyper important, en fait. Parce que du coup, c'est cette vulnérabilité qui me permet aussi de toucher la joie, tu vois, le bonheur. Donc, je crois que c'est ça, en fait, qui me rend fière.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu croises là et qui te dit que tu n'en es là uniquement que grâce à de la chance?
Alors, attends, du coup, tu poses la question en mode la personne, elle se désole. Enfin,
là,
se
tu rencontres quelqu'un là et elle te dit, ah, mais de toute façon, toi, aujourd'hui, tu es bien dans ta vie, tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta peau. Ça, c'est que grâce à de la chance.
Ouais, bah alors moi je crois beaucoup à la phrase j'aide la chance, tu vois, j'aide la chance du verbe aider. En fait, je pense que la chance elle se crée. Je crois vraiment que c'est un état d'esprit. Alors moi j'ai beaucoup cheminé avec la physique quantique, la loi de l'attraction. Je me suis rendu compte que j'attirais à moi ce que je vibre. Et ça en fait ça a été un gros changement parce que avant quand j'étais plus jeune j'étais quand même dans des pensées très violentes envers moi-même, donc oui, en fait je crois en la chance, mais je crois qu'on est la première personne à la créer et que avoir de la chance ça nécessite aussi d'être ouvert à la voir, à la sentir. Et tu vois, enfin moi vraiment j'ai été guidée par les synchronicités mais d'une façon, mais tellement, enfin, à tel point que des fois, le soir, je racontais à Olivier des trucs, je disais, mais tu vas pas me croire, en fait, il m'est arrivé ça, et c'est un signe, quoi, vraiment. Et donc pour moi, avoir de la chance, ça part d'abord de soi, parce que, en fait, l'extérieur est un reflet de ce qu'on est à l'intérieur, de comment on est à l'intérieur. Donc j'ai envie de dire, bah arrête de te lamenter, tu vois, et prends les choses en main. Et c'est pour ça que j'utilise cette expression de prendre conscience que chacun est responsable au moins à 50%. Et je dis pas qu'on est responsable de tout, hein, mais prendre conscience que même dans les choses difficiles qu'on traverse, on est acteur en fait de ça. D'ailleurs, il y a un livre que j'avais adoré, extraordinaire, qui malheureusement n'est plus édité. Qui avait été créé par un mec qui était négociateur en prise d'otage et le titre c'était cesser d'être otage, reprenez la main. Et en fait il explique comment on se prend nous-mêmes en otage,
on se victimifie.
Exactement.
Plutôt. Mais ouais.
C'est ça, c'est à ça que ça me fait penser, tu vois, quand tu dis les gens qui disent ah mais oui toi t'as de la chance, bah en fait moi j'ai envie de dire à ces personnes de d'entrouvrir la petite porte, de cheminer vers eux-mêmes, tu vois. Parce qu'en fait, la chance, on l'a créée.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
Je crois que j'aurais aimé que... oui, je crois que j'aurais aimé qu'on m'explique beaucoup plus tôt qu'en fait, la vie, c'était pas que dans le mental, en fait. Et si on m'avait dit beaucoup plus jeune que parce que j'étais une enfant hypersensible qui du coup souffrait beaucoup de cette hypersensibilité, et donc en fait je me suis réfugiée complètement dans ma tête pour couper en fait tout ça, couper les émotions, couper les sensations, Et en fait, si on m'avait expliqué que se réfugier dans sa tête, c'est pas du tout une solution, et qu'on a besoin d'être complètement ancré et incarné dans notre corps, et que c'est ce juste équilibre qui fait que la magie opère, bah, je crois que ça m'aurait probablement fait gagner beaucoup de temps.
Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Franchement, j'ai eu pas mal de bons conseils, notamment quand j'étais à l'incubateur dont je t'ai parlé là. Là, vraiment, j'ai eu beaucoup de bons conseils. Mais je crois que... Attends, je réfléchis. C'est difficile parce que j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont... Tu vois, j'ai beaucoup appris par les livres aussi, notamment j'ai beaucoup travaillé sur mon perfectionnisme par les livres. Je crois que c'est quelque chose plutôt que j'ai eu dans un livre plutôt que dans un, tu vois, par quelqu'un. Mais je dirais que le conseil qui m'a le plus aidé, c'est en fait que je être qui je suis, ça suffit en fait. Que finalement, parce que dans cette volonté de perfection constante, en fait, j'étais tout le temps à faire plein de choses, à vouloir les faire du mieux que je pouvais en mettant toute mon énergie. Et en fait, en me documentant beaucoup, j'ai fini par comprendre que être, en fait, ça suffit et qu'il n'y a pas besoin d'être dans le faire constamment. Je crois que c'est le meilleur conseil. Après, je dirais que c'est pas le plus facile à appliquer parce qu'il m'a fallu longtemps pour comprendre. Il m'a fallu quand même longtemps pour comprendre ce que ça voulait dire. Du coup, un conseil peut-être plus tangible, c'est d'écouter son intuition. Et toi, c'est ce que tu dis dans ce que tu fais. C'est d'écouter son intuition. Et l'intuition, il y a plein de gens qui l'entendent plus parce qu'ils sont dans le mental. Et donc en fait, pour écouter son intuition, le seul conseil que je peux donner, c'est de faire du vide et du silence. Et en fait, même si c'est que 5 minutes de temps en temps, mais en fait 5 minutes de vide et de silence, ça veut dire personne autour de vous, pas de téléphone, pas d'ordinateur, ne pas vous occuper l'esprit en lisant quelque chose ou en regardant quelque chose, mais juste vous demander en fait ce que alors moi je m'adressais à la petite Anaïs hein. Depuis un stage j'ai fait ce qu'on appelle un voyage héroïque en 2016 où je me suis reliée avec la petite Anaïs, tu vois, au fond de moi. Donc en fait je m'adressais à la petite Anaïs et en fait je lui demandais mais comment tu te sens là en fait, et de quoi t'as envie. Ou alors quand je prenais une décision, je lui demandais mais en fait est-ce que ça te plaît, et je suis visuelle, donc ça passait beaucoup par je fermais les yeux et voilà, je visualisais. Donc le conseil, c'est faire du vide et s'offrir le silence. Et le silence, ça fait peur aux gens. Et en fait, j'ai envie de les rassurer et de leur dire en fait, vous n'allez pas disparaître. Vraiment, je peux le dire parce que moi, j'ai fait des semaines et des semaines de vide. Tu vois, en Alaska, et puis maintenant, je fais des retraites en solitaire dans le silence très régulièrement, et où je fais rien, et je peux garantir aux gens qu'ils seront toujours là et que même ils seront tellement plus présents à eux-mêmes, et donc ensuite à leurs enfants, à leurs conjoints, à leurs collègues, au travail, enfin. Donc voilà, faire du silence et faire du vide.
C'est quoi tes prochains défis?
Moi j'utilise plutôt le mot envie, si tu me permets.
Ah oui, bien sûr.
parce que du coup le mot défi pour moi, tu vois, c'est un peu la guerrière, enfin tu vois. Et comme du coup maintenant je suis plus dans une énergie plus féminine, plus de douceur et d'intuition, plutôt mes prochaines envies, tu vois, là vraiment en fait cet automne, je sens que le projet du moment, c'est de finir l'écriture de mon livre. Donc tu vois, je m'y attelle avec beaucoup de joie, avec parfois c'est pas toujours facile hein, d'écrire, mais ça vraiment ça me porte et je sens que c'est le truc du moment. Donc finir mon livre, trouver un éditeur pour ce livre, là c'est pareil, il y a des choses qui sont en train de se passer, donc je fais confiance à la magie de la vie. Donc ça c'est quand même un Oh, gros morceau, que, ouais. Voilà, c'est quand même un truc pas mal. Et puis il y a autre chose. Alors moi maintenant, je scinde plus vie pro, vie perso. D'ailleurs, je sais pas toi comment là-dessus tu es, mais j'ai vraiment fusionné les deux. Donc il y a un autre gros morceau, mais qui va se faire sur du long terme. C'est avec mon conjoint, on pense que ça va mettre 2 à 3 ans, tu vois, à se mettre en place, mais on est en train de commencer. C'est notre prochain lieu de vie, en fait, où on veut aller vers un mode de vie plus simple, plus sobre, beaucoup plus dans la nature, sans perdre le lien social, hein, bien sûr. Donc, on est en train, tu vois, vraiment d'aller dans ce sens-là, tu vois, pour te donner un exemple très concret. On est rentré hier de 3 jours de week-end où on est allé rencontrer Patrick et Brigitte Baronnet, qui sont pionniers en autonomie. Ils sont autonomes, ils avaient 4 enfants et ils vivent dans une maison autonome en tout, en eau, en électricité, presque en alimentation. Enfin, et donc tu vois, on va s'inspirer en fait auprès de gens comme ça, parce que on sent aussi que c'est un peu, c'est notre défi de couple, tu vois, c'est notre défi commun. Où on a aussi besoin de s'aligner sur ça. Donc voilà, c'est deux, je pense, envies, défis qui sont pas mal et qui vont nous challenger aussi, hein, c'est sûr.
Ah, tu m'étonnes. As-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
Bah écoute, déjà, merci à toi, parce que je vois qu'on a passé beaucoup de temps ensemble et merci pour ce moment. Ça me permet aussi de revoir, tu vois, le fil de tout. Et puis, en fait, j'ai envie de dire merci à l'univers et merci à la vie, enfin pour tout ce que je vis aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai autour de moi, mon conjoint. Enfin, la gratitude, c'est quelque chose que je trouvais très niais quand j'avais 20 ans. Et j'ai bien changé sur ça aujourd'hui, tous les jours. Enfin, tu vois, là, hier, on a fait une demi-journée de balade dans un endroit magnifique qu'on a découvert par hasard, avec un paysage de landes. Et ben, en fait, je remercie la nature pour ça. Enfin, tu vois, l'arrivée de l'automne, avec tout ce que ça va nous apporter d'énergie différente pour se recentrer sur nous. Donc, merci à la vie, quoi. Merci à l'univers.
Merci beaucoup Anaïs, et puis je mettrai donc tous les liens pour te suivre sur le blog pourquoipasmoi.co et sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup Charlotte, merci infiniment.
Merci.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme je vous le disais, je vous mets tous les liens, dont celui d'EDX, sur le blog pourquoipasmoi.co. Je vous mettrai également le lien de son TEDx dans la newsletter de demain. D'ailleurs, quand j'ai vu son TEDx, j'ai remercié 1000 fois Hélène dans ma tête de m'avoir présenté Anaïs. Alors encore merci Hélène. Si le podcast vous plaît, ne ratez aucun épisode en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et pour le soutenir, mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.